le message de William Branham que vous allez entendre sur cette bande enregistrée s'intitule « Se ranger du côté de Jésus ». Quelque endroit à Louisville où vous mangez, et c'est appelé, voyons, le Doc Patch Restaurant. J'en ai eu aujourd'hui. Et quand quiconque mange là, alors ils prennent l'argent que vous leur avez donné et ils en prélèvent la dîme pour la donner à l'église. C'est quelque part au 319 de la rue West Jefferson. Je pense que c'est pour cela que Billy l'avait posé ici. C'était pour qu'il puisse voir. C'est vraiment gentil. Maintenant, frère, je ne connais pas votre manière de procéder dans des réunions d'hommes, juste ce que vous faites et comment vous vous conduisez dans vos réunions. Et si je dépasse l'heure prévue, si je vais en dehors de votre routine habituelle, attirez mon attention. C'était proposé ce soir, et je pensais, comme je dînais il n'y a pas longtemps, avec notre très cher pasteur, frère Neville, et je lui disais quelque chose qui était sur mon cœur. Et je pensais que nous amenions un groupe d'hommes ensemble, des prédicateurs, ils sont nos collègues ici de l'Évangile, et des hommes, nous pourrions nous parler l'un l'autre d'une telle façon que nous ne le ferions pas devant le public, parce que nous sommes tous, et nous sommes des hommes qui comprenons comme des hommes chrétiens. Et de cette façon, normalement dans une assemblée, un groupe, vous dites quelque chose, et un le fera pencher un peu de ce côté-ci, et un autre le fera pencher de ce côté-là, et alors tout s'en va. Mais ce que nous venons essayer de vous dire ce soir, ce que j'ai sur mon cœur concernant l'Église, et sa place, et sa position. Et alors, si nous avons fini à temps, j'aimerais vous parler juste un petit peu sur la parole, si cela ne vous fait rien. En quelque sorte, régler cela. Aussi, nous aurons notre partie d'affaires, ou la partie que j'aimerais tout d'abord vous expliquer. Et je pense que peut-être vous pourrez sortir, comme d'habitude, à 9h30 environ, quelque chose comme cela, comme chaque soir. Bien, j'essaierai de ne pas vous retenir trop longtemps. Demain, c'est samedi, et c'est un grand jour commercial. Mais maintenant, nous devons aller au supermarché, et ainsi de suite. Je veux dire à Frère Neville publiquement. Maintenant, je veux dire à chacun de vous, juste comme si je vous parlais en privé, à chacun de vous, car vous êtes un groupe qui est un... Je crois vraiment cela, et je crois et j'enseigne que l'homme, Dieu a fait pour conduire son Église des hommes, ou Dieu a des hommes pour conduire son Église. C'est son peuple, voyez, et c'est un... Comme je prêchais là-bas chez le frère Johnny Jackson hier soir, sur Dieu fortifia son peuple par sa parole. Et ce fut une femme qui brisa cette ligne, elle donna vent à la raison, et quand cela se fit... Dieu pour toujours l'a toujours placé pour son l'homme pour garder son Église fortifiée par la parole. Et maintenant, je veux juste un peu encourager le frère Neville, lui parlant en privé. J'ai remarqué hier soir, le discernement me frappa deux ou trois fois quand j'étais au pupitre et je me retournais car j'essayais de rester aussi loin de cela que je pouvais jusqu'à ce que je trouvais ce que le rêve signifiait pour moi ici il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Et cela resta avec moi pendant longtemps. Je le dis à l'Église ici, sur quelque chose sur le message, et le discernement, et ainsi de suite. Cela ne venait tout simplement pas juste. À mon opinion, ce temps est fini. Et maintenant, je peux avoir tort sur cela, mais j'ai remarqué que le frère Neville était en quelque sorte là, très troublé. Et alors, je voulais seulement que tu saches, frère Neville, que tu as seulement anticipé dans cette communion, dans cela. Avez-vous seulement remarqué ce que Satan a essayé de faire dans ces quelques derniers jours à ses ministres associés dans cette fraternité ici? Arrêtez-vous seulement pour quelques minutes et posez-vous des questions. Ici est assis frère Craig, assis ici ce soir, presque tué là-haut sur la route, voyez? Et ma tête a failli éclater par un coup de fusil de chasse ou avec un fusil, voyez? Satan essaye de nous prendre. Et là, tu t'es écrasé, et tu aurais pu te tuer, et quelques femmes aussi, voyez? Seulement les ministres. Regardez seulement au groupe du ministère, voyez? C'est Satan, et il essaie de se débarrasser de nous. Maintenant, nous réalisons que nous ne sommes pas rassemblés ici pour parler de tel ou tel genre de commerce. Nous sommes assemblés ici pour parler sur Christ et les appuis pour prendre appui et quoi faire dans ce temps présent. Et je veux t'encourager, frère Neville, sois courageux, qu'importe ce qu'il arrive, ce qui va, ce qui se passe, ne permet à rien de t'assaillir. Tiens-toi seulement là comme un rocher des âges, et Dieu fera en sorte que toute chose arrive juste, et te l'a prouvé. Évidemment, cela aurait pu te troubler, cela aurait pu tuer cette femme, et cela serait demeuré dans ton esprit pour le reste de tes jours, et cela a été beaucoup de choses. Mais Dieu est toujours sur le trône. Il fait en sorte que ces choses tournent bien. Il pourrait nous prendre aussi. Et ainsi, Satan se bat contre l'Église. Maintenant, quand j'ai placé cette première pierre angulaire ce matin-là, je n'ai pas du tout ressenti que je serais une fois un pasteur. Cela ne faisait pas partie de mon appel au commencement, car mon premier appel fut d'aller dans les champs d'évangélisation. Il y a de nombreuses années, et j'ai commencé dans une tente, là, juste de l'autre côté de la route, et je me rappelle quand le frère Roy Davis, ici en bas, son église brûla. Et ce groupe de gens était juste comme des brebis égarés, sans un berger, et ils n'avaient aucun endroit où aller. Et monsieur Stenberg était le chef de la police alors. Il m'appela là en bas et il me dit, « Nous sommes ici pour vous aider. » Il dit, « Moi-même, je suis catholique. » Mais il dit, « Ces gens-là, il dit, ils ont probablement leurs habits. » C'était pendant le temps de la dépression. Il dit, « Ils vont dans d'autres églises et ne se sentent pas à leur place. Et ce sont de bonnes gens. J'en connais plusieurs. » Il dit, « Billy, si tu veux commencer une église, il dit, je veux que tu saches que nous sommes derrière toi dans tout ce que nous pourrons t'aider. » Et je le remerciais pour cela. Nous eûmes un jour d'inscription. Premièrement, nous avons prié et demandé au Seigneur. Et les gens sont venus vers moi. Et ils voulaient bâtir une église afin qu'ils puissent avoir un endroit où aller. Et nous décidâmes pour cet endroit. Et une nuit, à peu près à cette époque, ou un peu plus en avant, dans un petit tas de mauvaises herbes, à peu près ici, et avec de l'eau dans le canal, et c'est à peu près comme un dépôt, alors le Seigneur me parla définitivement. Et il me dit, bâtis-la ici, pas un sou d'argent. Et entre tous, nous avions à peu près 80 cents. Soit 2,40 francs ou 1 $, environ 3 francs suisses, etc. Évidemment, vous ririez à cela maintenant. Mais frère, c'était de l'argent alors. Quand des voisins cuisaient un pot de haricots, ils allaient chercher les voisins qui n'avaient rien eu depuis 3 ou 4 jours pour les inviter à en manger quelques-uns. C'était des temps difficiles. Beaucoup des jeunes gens n'ont pas vu cela, mais c'était des temps difficiles. J'ai vu le temps où vous pouviez passer le plat de la collecte à travers cette église 2 ou 3 fois. Et recevoir 30 cents, environ 90 centimes, quand cet endroit était tout plein, et mendier encore pour cela, ce serait, vous preniez environ 30 cents, et vous auriez eu une bonne offrande. Vous voyez, c'était vraiment des temps pénibles. Nous n'avions rien pour construire, mais tout de même, le désir des gens était de bâtir une église, afin que nous puissions avoir un endroit où aller. Car, en ces jours-là, le message, bien, vous pensez qu'on en pense du mal maintenant, mais vous auriez dû le voir alors, quand il n'y avait personne. Et alors, le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ, et les bénédictions, et les choses que nous croyons et que nous soutenions. Ainsi, dans mon cœur, je fis une promesse à Dieu que nous resterions ici et que nous bâtirions le tabernacle. Et le matin où nous avons posé la pierre angulaire, il me rencontra dans une vision à environ 8 heures ce matin-là, comme j'étais assis là, observant de l'autre côté le soleil qui montait, à peu près à la saison actuelle. Et il m'avait dit, après qu'il m'eut rencontré là-bas sur la rivière, mais que, quand l'ange du Seigneur apparut dans cette lumière, et je l'ai vu dans le lointain, cela ressemblait à une étoile, elle vint juste là où j'étais, et ses paroles éminentes furent dites. Et alors, je proposais de trouver un endroit où les gens pourraient adorer. Maintenant, je pensais moi-même, cela n'est pas pour moi, cela n'est rien pour moi, mais n'importe quoi qui a rapport avec Dieu est une partie de moi, qu'importe si c'est. Tout ce qui est pour les enfants de Dieu, c'est pour moi. Si c'est mon devoir ou non de le faire, ceci ou de faire cela, c'est mon devoir de veiller sur l'héritage de Dieu, peu importe où cela est. Vous voyez, juste comme vous dites, bien, Comme quand vous étiez un petit garçon, vous disiez, mon affaire c'est de couper le bois, pas de le rentrer, que John le rentre. Cela m'est égal si la neige tombe dessus, la pluie, qu'il sorte et qu'il le prenne. Non, c'est votre devoir à vous, comme enfant de cette maison, de voir que le bois ne devienne pas mouillé pour votre maman. Voyez, rentrez-le. S'il dit, bien, Franck aurait dû aller chercher l'eau, ce n'est pas mon affaire. Mais si Franck n'est pas allé chercher l'eau, c'est votre devoir de prendre soin de l'eau. C'est tout. Maintenant, c'est juste de la manière que cela va. Et c'est de la manière que cela va aussi dans la famille de Dieu. Et s'il y en a qui, il y en a qui dire l'autre, il n'y a pas longtemps, ils me dirent, arrête de prêcher comme tu le fais. Tout de même, tu vas perdre tous les amis que tu as et chaque chose comme cela. Ils dirent, laisse cela tranquille. Je sais que c'est faux, mais ce n'est pas notre affaire. Mais alors, à qui est-ce l'affaire? Si c'est faux, quelqu'un doit le faire. Ainsi, faisons-le. Et c'est ce que je ressens concernant l'Église. Et les programmes de construction et ainsi de suite ont eu des hauts et des bas, des hauts et des bas. Il y en a eu pour et contre dans le bâtiment et ainsi de suite. Un le voulait, l'autre ne le voulait pas, et ceci, cela, vous le trouvez comme cela. Vous trouvez qu'en traitant parmi les ministres, parmi les hommes d'affaires, parmi les loges, où que vous alliez, où vous avez un groupe d'hommes, vous avez des idées différentes. Et ainsi, vous devez avoir une seule personne dans laquelle vous mettez votre confiance, et élire cette personne, et tous œuvrent avec cela, juste comme dans l'armée. Vous devez avoir, l'un est un général, c'est celui qui est au quartier général. Le capitaine dit ceci, c'est le capitaine de ce groupe, mais alors le général peut changer ses ordres. Et le général commandant en chef est évidemment Jésus-Christ dans l'Église. Et ses ministres sont ses capitaines des compagnies qu'il représente ici sur la terre. Et ils ont essayé beaucoup de choses. Le petit tabernacle ici. Et finalement, je me tenais tranquille dans ceci seulement pour voir après que je l'ai bâti. Et alors le Seigneur m'appela dehors dans le champ, il y a environ 15-16 ans, et je quittais l'église. Mais tout de même, je ne peux pas la laisser aller. J'ai toujours gardé mon nom attaché à elle, afin que je puisse avoir quelque chose à dire une fois si des choses fausses commenceraient ici. J'aurais un droit de venir et de l'arrêter, parce que j'en ai sué pendant bien des années derrière ce pupitre. 17 ans ici pour tenir les choses en ordre. Et quand toutes sortes de ismes et de ins et de outs et toutes sortes de cultes et étant interdénominationnels, tout ce qui volait dedans volait de cette façon. Mais avec l'aide de Dieu, nous sommes tenus ici avec l'Évangile sans adultère. Elle se tient de la même façon ce soir. Et ainsi nous, mais il y eut des temps où on a essayé de vendre cette église dans mon dos et bien des choses comme cela. Et si mon nom n'était pas attaché à elle, là en bas, elle serait certainement dans une très mauvaise position ce soir. Pas, et ce n'était pas moi, c'était Dieu, évidemment, qui l'a fait. Et alors, comme je vois maintenant, venant dans l'endroit où elle vient, et nous vivons dans une œuvre très grande, c'est toujours mon intérêt de dire quelque chose sur cette église. Vous voyez, parce que c'est une partie de moi. Que je sois ici ou pas, c'est toujours une partie de moi. Et c'est mon devoir de voir à ce que tout s'opère d'une façon propre, claire et le mieux que je puisse pour le royaume de Dieu. Et je suis très reconnaissant que dans ces jours, je vois qu'elle a des petits satellites pour lesquels je suis reconnaissant. Le frère Quay ici et son groupe de Sellersburg. Le frère là-bas derrière qui prend justement la place de frère Snelling à Utica. Le frère Ruddle ici en haut et le frère Junior Jackson. Et ces précieux garçons qui sont de bons hommes, de magnifiques hommes de Dieu. Ils prêchent ce message. Maintenant ils font. Oh, l'un peut ne pas être d'accord seulement sur un petit quelque chose ou autre. C'est seulement humain parmi le groupe des prédicateurs maintenant. Et si les ministres ont de petites différences, il n'y aura pas l'ombre d'une différence en cela. Peut-être que l'un dira, je crois que le millénium viendra et Jésus sera sur un cheval blanc. Et un autre dira, je crois que quand il viendra sur un nuage blanc. Bien, aussi longtemps qu'il croit qu'il revient, c'est la chose principale, voyez. Qu'importe comment il revient, seulement il croit qu'il revient, et il se prépare pour cela. Et de cette façon, j'ai essayé de trouver maintenant, et j'ai étudié, maintenant je l'ai dit devant l'Assemblée, j'ai étudié l'Église primitive, et j'ai observé la façon que ces hommes ont un préparait la maison du Seigneur, est l'ordre de l'adoration du Seigneur dans la maison. Et cela ne fera pas vraiment beaucoup. Et j'ai prêché ici, il y a quelque temps, sur le sujet de Joël 2. Je restituerai, dit le Seigneur, toutes les années que la sauterelle a mangé, et que le yélek, et que le hasil, et ainsi de suite. Et je commençais d'étudier cela, sur ce que ces hommes firent, et la façon qu'ils prenaient soin de l'église sur laquelle Dieu les avait établis surveillants. Maintenant, nous allons commencer avec l'église primitive, et nous allons de là pour 5 minutes environ maintenant, la porter pour voir ce qu'ils ont fait, et alors je peux vous montrer la vision que j'ai pour le futur. Maintenant, au commencement, l'église a été inaugurée à la Pentecôte. Et là, le Saint-Esprit tomba sur eux, là où Jésus en avait choisi 12. Et l'un d'entre eux était tombé. Ils avaient choisi Matthias pour prendre sa place. Et le Saint-Esprit attendit jusqu'à ce que tout fût en ordre avant de venir. Il devait en choisir un pour prendre la place de Judas qui tomba par transgression pour accomplir l'Écriture. Et je crois que toutes ces choses ont un temps de prolongation ou d'attente. Il y a un temps d'attente jusqu'à ce que l'Écriture s'accomplisse, jusqu'à ce que tout soit juste, tout en ordre, attendant. Souvent nous devenons patients, impatients, comme un enfant. Nous avons de grandes anticipations et souvent nous sautons loin en avant et cela fait seulement gêner l'œuvre, jusqu'à ce que l'œuvre ait à être saisie. Vous voyez, nous devons seulement avancer avec révérence, avoir un but dans le cœur, que Dieu, s'il désirait nous employer de tel et tel, mais attendez jusqu'à ce qu'il fasse ouverture, car il doit aller avant nous. Vous rappelez-vous David, alors la bataille, cette nuit-là, il était las de cette bataille. Il se coucha sous ses mûriers, jusqu'à ce qu'il entende le Seigneur dans le grondement des feuilles allant devant lui. Alors, il alla avec courage, parce qu'il savait que Dieu était allé devant lui. Et nous faisons seulement cela, frères, sachant que la bataille doit venir. Mais nous devons attendre jusqu'à ce que nous voyons la main de Dieu aller devant nous pour nous tracer le chemin. Maintenant, j'ai remarqué comment les églises, l'évangélisation commença à se répandre partout. Et alors nous prendrons par exemple Paul devenant un grand missionnaire pour notre peuple. Nous trouvons qu'il alla partout où le Seigneur le conduisit et il établit une église. Et c'était une foi nouvelle. Les églises de ces jours-là, comme en Asie mineure, tout au travers de l'Europe, ils ne croyaient pas ce message. Et quand il avait prêché le message, et beaucoup furent convertis à lui, puis il n'y avait personne. S'il laissait le peuple dans cette condition, il retournerait directement auprès de leur dieu païen et dans le judaïsme et quelque chose d'autre, parce que les gens n'avaient personne pour les enseigner. Les convertis, ils n'avaient aucun endroit où aller. Ainsi, Paul établit des églises dans différentes parties du pays. Et dans chacune de ces églises, il laissa quelqu'un qui était en ordre, un homme de confiance, un homme qui était connu comme un pasteur, un berger ou un... Alors, après que cette église fut devenue, d'autres petites églises sortirent d'elle. Des jeunes gens et des vieillards se levèrent et ils devinrent des églises de cela. Et l'homme qui avait la charge de la première église fut appelé l'évêque. Et alors, ceux qui sortit de lui, ses enfants, étaient appelés des bergers ou des pasteurs. Et alors, ce groupe de petites églises, tous retournaient à l'évêque. Comme autant d'Irénée, celui-ci continua la même chose, Martin continua la même chose, Polycarpe continua la même chose. Et en descendant les âges, ils avaient cela. Et alors, l'apôtre de l'église, l'apôtre qui était le Paul, et quand Paul partit, Jean prit l'église en main. Et quand Jean partit, Polycarpe assuma la responsabilité. Quand Polycarpe s'en alla, Irénée assuma la responsabilité. Et en descendant, Martin et ainsi de suite. Cela continua d'avancer jusqu'à ce que l'église catholique romaine cassa toute la chose en pièces. Elle les brûla, les dispersa. Et la sauterelle mangea ceci, et le yélek mangea cela, et ainsi de suite. Cela fut mangé, mangé, jusqu'à ce que cela arrive carrément à un trognon. Maintenant, Dieu a promis de restaurer de nouveau la même chose. Je crois avec tout mon cœur que nous vivons dans les derniers jours. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui casseraient ceci, tout. et mon interprétation peut être fausse, que Jésus ne pourrait pas venir ce soir, je crois que le peu qui reste à être accompli peut être accompli avant l'aurore demain matin. Et je vois, et je peux me tromper sur le temps de cet accomplissement, mais c'est à portée de la main. Je crois cela. Et rappelez-vous, Paul croyait cela, Jean croyait cela, Polycarpe croyait cela, Irénée croyait cela, Martin croyait cela, et tout le reste croyait cela. Que pensez-vous? Si Dieu avait révélé à Jean le Révélateur, maintenant il va y avoir encore 2000 ans avant ma venue. Jean serait revenu en arrière et il aurait dit à l'Église, « Bien, je pense que nous avons aussi bon temps de manger, de boire, d'être joyeux, parce qu'il y aura beaucoup de générations, voyez ?» Jésus ne reviendra pas avant 2000 ans. Voyez, ainsi, voyez, l'Église aurait été libre, il y aurait eu non sur la marque, il n'y aurait pas eu d'attente. Après tout, c'est votre anticipation. Si vous vous endormez dans cette veille, que vous veillez avec cette même anticipation, car cela ne changera pas une seule chose, vous serez juste là à temps de toute façon. Voyez, voyez ce que je veux dire? Maintenant, quand Saint Martin se réveillera dans la résurrection, Saint Paul et tout le reste, ils seront aussi frais que s'ils étaient dans la bataille, se battant tout de suite, parce qu'ils descendirent sous ces mêmes anticipations, regardant vers sa venue. Et un cri se fera entendre, et toute l'Église entière se lèvera. Voyez, cela sera tout. Ainsi, cela n'a pas d'importance. Voyez, nous devons regarder pour lui juste maintenant. Même, nous ne savons pas, cela pourrait probablement être, cela pourrait être dans 100 ans, cela pourrait aller 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans, je ne sais pas, personne ne sait. Mais disons par exemple comme ceci, que nous vivons chaque jour comme s'il venait ce jour-là. Voyez, si nous vivons comme s'il venait ce jour, quand nous nous réveillerons, car si nous nous endormons, nous nous réveillerons dans la résurrection, nous serons aussi frais que si nous étions juste tombés endormis. Nous nous réveillerons simplement. La trompette résonnera, les morts en Christ ressusciteront les premiers, et nous qui sommes vivants et qui restons, nous les rejoindrons pour rencontrer le Seigneur avec eux dans les airs. Voyez, ainsi cela sera aussi frais. Mais maintenant, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'ils viennent, nous voulons vivre chaque jour comme s'il pourrait venir la prochaine minute, parce que cela pourrait être la fin de votre vie dans cette minute. Vous ne savez pas quand vous vous en irez. Cela pourrait être vos derniers soupirs. Nous l'avons en nous maintenant. Ainsi, vous voulez vivre comme cela est. Mais maintenant, pour continuer à avancer, nous devons mettre des empreintes ici dans les sables du temps afin que des autres puissent voir. Et si Paul n'était pas allé de la façon qu'il est allé, alors Jean n'aurait pas su comment continuer. Et si Jean n'avait pas continué, Polycarpe n'aurait pas su comment suivre. Et si Polycarpe n'avait pas continué, Irénée n'aurait pas su comment continuer. Et si Irénée n'avait pas continué, Martin n'aurait pas su comment continuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Chacun doit mettre des empreintes dans les sables du temps. Bien, si je pensais qu'il y a une dénomination ou quelque autre groupe de croyants qui possède quelque chose de meilleur que ce que nous avons ici, frère, je voudrais émerger ce petit corps avec lui tout de suite. J'ai attendu. J'ai désiré ardemment, j'ai été sous l'anticipation, j'ai cru que quelqu'un de grand viendrait un jour, ou peut-être un. Ce grand prophète dont je parle viendra, Élie. J'ai toujours cru et pensé peut-être que peut-être je vivrai pour voir le jour que où je pourrais changer, quand je verrai cette personne s'élever sur la scène, alors je pourrais prendre ma petite église et dire, frère, c'est l'homme que nous cherchions, cet homme c'est lui. J'ai attendu cela, et si actuellement cela s'est passé, alors j'attends de dire depuis ici en haut, frère, c'est celui-là, venant d'ici, voyez, et je veux voir l'Église être tenue comme cela. J'ai dû marcher sur quelque chose, ou j'ai fait quelque chose qui a mis beaucoup plus de vie dans cette chose. Frère Branham marche sur les câbles du microphone, dérangeant le système de sonorisation, note de l'éditeur. Ainsi maintenant, j'aimerais dire ceci. Puisque maintenant, ceci est une église établie, laissez-moi m'arrêter de nouveau pour un moment. Quand je suis allé à Bombay, et je compte cela comme l'une de mes plus grandes réunions à cause de l'effet qu'elle a eu sur les gens, si en Afrique, ils ont dit que 30 000 vinrent à Christ en une fois, alors là, il y en a eu 150 ou 200 000 qui vinrent à Christ, et en une fois, sur ce demi-million là-bas, qu'est-ce que je pouvais faire? Il n'y avait rien. Peut-être disons qu'il y en a eu 100 000. Il n'y avait pas d'église, rien que je puisse faire. Il n'y avait personne à leur donner. Le message que je crois, il n'y avait même pas d'une dénomination pentecôtiste qui voulait coopérer avec moi. Et toutes ces âmes glissèrent probablement de nouveau dans les chiites, djents, bouddhistes ou dans ces quelques autres choses où ils venaient. Pas d'endroit pour les mettre. Maintenant, c'est une honte, c'est une disgrâce, vous voyez, parce que je n'avais pas de coopération à cause de la position sur laquelle je me tenais, vous voyez. Bien, en Afrique, je suis allé là-bas sous les auspices de la AFM, c'est-à-dire les missions africaines de la foi. Et quand je le fis, évidemment, je ne peux pas être d'accord avec eux. Ils baptisent les gens dans un baptême triple, trois fois le visage en avant, et l'un d'eux baptise trois fois en arrière, une fois pour un Dieu, le Père, l'autre fois pour un autre Dieu, le Fils, l'autre fois pour un autre Dieu, le Saint-Esprit, et baptisant trois fois différemment pour trois différents dieux, et encore bien des choses comme cela. Et peut-être la réunion de Durban ne l'ayant pas vue de la façon correcte, et les gens voyant une telle diversité dans les croyances pentecôtistes et ainsi de suite, les gens ne savaient pas quoi faire, ils n'avaient aucun endroit où aller. Peut-être, imaginez que nous ayons un réveil juste ici, frère. Laissez-moi le placer comme cela. Que pensez-vous? Nous avions juste terminé un grand réveil. Et vous, frère, vous êtes juste convertis. Et qu'il n'y ait pas une église de ce genre dans le pays à aucun endroit. Et moi, je serai l'évangéliste. Et maintenant, je vous quitte et vous ne me reverrez peut-être jamais. Que feriez-vous? Vous vous sentiriez comme, vous ne sauriez pas quoi faire. Vous ne pouvez pas retourner de nouveau vers ces gens. Vous ne pouvez pas retourner là-bas avec vos femmes portant des shorts et vers vos parties de cartes et vos danses et des choses comme cela, et d'être de nouveau satisfait. Vous êtes venu à la lumière. Vous vous êtes élevé au-dessus de cette chose. Vous êtes arrivé au point où, au lieu de dire « c'est notre credo », vous dites « c'est la parole de Dieu ». Et vous êtes venu pour vivre par cela, ce que cela dit, et pas ce que... Et vous allez là-bas pour les écouter, et vous les écoutez descendre et jouer au banco, et ils ont une danse, et ceci, cela, et autre chose, et un petit peu de message dans lequel il n'y a rien sur quelques maires ou quelque chose qui va être réélu, ou quelque affaire politique, terminé en 10 ou 15 minutes, après que vous soyez resté ici, jour après jour, avec ces grands jubilés gastronomiques de la parole et ces choses, vous ne sauriez pas quoi faire. Vous seriez si accablé avec cela que vous, laïcs, vous désireriez commencer une église et vous commenceriez de la prêcher vous-même, car votre cœur brûlerait pour la parole de Dieu. Vous vous sentiriez troublé pour les gens qui ressentent la même chose que vous. Maintenant, n'est-ce pas juste? Même si vous savez que Jésus revient, même si vous pensiez qu'il reviendrait demain, vous voudriez tout de même faire quelque chose aujourd'hui pour ces gens qui sont des concitoyens du royaume de Dieu, pour venir ensemble, vous voudriez fraterniser avec eux, c'est juste. Ainsi, si c'est comme cela, maintenant, je crois de tout mon cœur que le Seigneur m'a aidé, il m'a employé pour être le fer de lance d'un grand réveil, un des plus grands qui toucha jamais le monde depuis les premiers jours, tout autour du monde. Nous savons cela, c'est juste. Tout était fini à ce moment-là. Et il me rencontra là-bas sur la rivière. Il me dit que le message que j'avais serait le précurseur de la seconde venue de Christ. Et je pense qu'il n'y a personne ici ce soir qui était là-bas ce jour-là. Il y a environ 32 ans, là-bas ce jour-là, il y a eu environ 32 ans que cette lumière est apparue, et debout là, moi regardant à elle, et des centaines de gens se tenant là regardant à elle. Elle descendit, et cette voix parla. Des années après, c'est étrange que la caméra ait pris la même image, lui ressemblant parfaitement, juste exactement ce que je vous ai dit là-bas sur la rivière. Maintenant, je peux me tromper dans bien des choses, frère, mais je ne veux pas être un hypocrite. Je veux être honnête et droit envers vous. Et alors autre chose. Si je m'en étais allé, nous n'aurions jamais bâti une église comme cela. C'est difficile de dire ce que nous aurions eu, voyez, si j'avais simplement continué. Mais le Dieu du ciel a mis cette chose sur mon cœur, de construire cette église ici. Et alors, quand il m'appela pour aller évangéliser, nous avons eu pasteur après pasteur et ainsi de suite. Mais maintenant, Nous avons un précieux frère ici qui est de notre foi, qui croit le message. Nous avons d'autres frères ici qui connaissent le message, ayant des choses. Est-ce que je parle trop fort, frère Villers? Le frère Branham a une conversation avec le frère Villers, note de l'éditeur. Avec un, nous avons le matériau. Et maintenant vous dites, bien frère Branham, s'ils ne veulent pas entendre ces signes et ces miracles du grand Dieu des cieux, comment le ferons-nous? Bien maintenant, que pensez-vous si saint Paul avait eu la même idée? Voyez, mais il ne l'a pas eu. Ses évêques restèrent aussi loyaux concernant le message. Et il, et Paul, de temps en temps, après avoir fait ses tournées, vous avez lu la Bible, comment il retournait visiter ses églises. Il parlait avec les pasteurs, avec les évêques, et ainsi de suite. Il soulageait le peuple, et avait un grand moment de fraternité, comme un réveil ou un grand moment de jubilé. Et le Saint-Esprit tombait sur eux, et les messages venaient. Regardez quand il descendit là-bas vers Philippe, même ses filles prophétisèrent et dirent, il y a des chaînes et une prison attendant notre frère quand il arrivera là-bas. Il était à peine sorti de la cour qu'un prophète, Agabus, descendait. Il regarda de l'autre côté de la rue. Il n'avait jamais vu Paul, le surveillant général de tout ce groupe d'églises à travers l'Asie. Et il marcha là-bas, il tira la ceinture de son côté, avec laquelle son vêtement était attaché, lia ses mains et dit, ainsi dit le Seigneur, des chaînes et la prison attendent celui qui portera cela là en haut. Vous voyez, prophétisant, Paul dit, je le sais, mais ne brise pas mon cœur maintenant, laisse-moi finir ma course. Il était fatigué, il était fini, mais il continuait, et il laissa son évêché à Timothée. Maintenant, nous devons penser aux jeunes gens. Nous avons des enfants, la plupart de nous, hommes mariés, avons des enfants. Alors, que pensez-vous de ceux qui se lèvent, vous voyez? Comme j'ai élevé la voix contre ceux qui jetaient ses filets sur la rivière, sortant toutes ces perches, ces buveurs, ces ivrognes et ces choses, je les ai vus empiler aussi haut que ce plafond ici, de belles grandes perches étalées là, et ensuite laissées pourrir. La puanteur était tout autour de la rivière. J'ai là-bas comme garde-chasse pour les faire arrêter, mais je reçus une lettre, laissez-les tranquilles. Que voulez-vous faire? Cela appartient au Kentucky. Maintenant, le garde du Kentucky ne peut pas venir ici parce qu'il est hors son territoire. Mais le garde de l'Indiana n'a rien à dire parce que les eaux appartiennent au Kentucky. Vous y êtes. Rien ne peut être fait. Je dis, j'ai un garçon qui grandit et qui aimerait pêcher. Mais il mettrait sa photo dans les journaux s'il attrapait un chabot dans 20 ans. Laissez ses filets, ses trappes et toutes les autres choses continuer. Et pratiquement, on en est déjà là aujourd'hui. Voyez, que se passe-t-il? Vous devez penser à ceux qui grandissent. Ainsi, nous devons penser aux autres qui arrivent derrière nous, ces jeunes gens et ainsi de suite, et une place pour nos enfants. Nos filles, nous ne les voulons pas là-bas dans le monde, dans ces choses comme cela. Nous voulons que ces filles soient élevées comme leur maman. Nous devons faire des arrangements pour cela. Et s'il n'y a pas de demain, nous ne savons pas cela. S'il n'y a pas de demain, nous n'avons rien fait, sinon d'être aux affaires du maître, et trouver à notre poste de devoir quand il arrive. Vous voyez? Ainsi, je suggérerais ceci. Je l'ai dit au frère Neville. Continuons ceci simplement comme nous l'avons fait. Laissons-le simplement de la façon que cela est. Je suis reconnaissant pour ces jeunes ministres. Vous voyez? Actuellement, au jour du jugement, pour cette vallée tout entière, il n'y aura pas d'excuse. Parce que nous avons des petites églises dressées tout partout. Des avant-postes, des postes d'écoute, attendant. Hier soir, j'étais dans l'église d'un frère, et je demandais si tous là-dedans étaient fortifiés derrière la parole, et toutes les mains se levèrent. Oh, maintenant cela me fit du bien, voyez. Maintenant, ce que je pense serait ceci, frère, que comme dans l'église ici, maintenant, mon ministère a, au mieux de ma pensée, il y a quatre choses qui peuvent être faites. Et cela ne pourrait être aucune des quatre, mais c'est la seule perspective que je peux voir. Si celui qui me parla là-bas sur la rivière, si c'est tout ce qui restait pour l'Église des gentils, ce dont nous réalisons que dans les révélations, l'Apocalypse, il est dit, 1, 2, 3 chapitres à l'Église. L'Église s'en va dans le 4e chapitre. Elle ne revient pas avant le 19e chapitre. C'est après la période de la tribulation quand Dieu appelle les Juifs à sortir, c'est juste. Et comme Enoch, il monta avant qu'une goutte de pluie ne touche la terre, il était parti. Alors la tribulation s'établit. Voyez, Noé était dans l'arche avant qu'aucune tribulation ne prenne place. Lot était en dehors de Sodome avant qu'aucune tribulation ne s'établisse. Voyez, ainsi l'Église sera partie avant aucune période de tribulation. Maintenant, pendant la tribulation, la Vierge folle sera poursuivie par le dragon, de l'eau jaillit de sa bouche, ce qui veut dire des multitudes et des peuples, des armées, qui cherchera et prendra cette femme, le restant de sa semence et la tuera. Maintenant, ce sera dans la période de la tribulation, mais l'Église ira à la maison. Maintenant, si cela arrivait demain, cela ne nous empêcherait pas de continuer aujourd'hui. Faisons qu'aujourd'hui compte. Maintenant, ce que je pense de là en bas, si cet ange qui me dit ces mots, il me dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer la première venue de Christ, vous voyez, ton message, je devais prendre ce message et il annoncerait la deuxième venue de Christ. Bien, si c'était le cas, alors nous sommes très très près, frères, parce que l'heure et la lumière du message a à peu près disparu. Avez-vous remarqué quand la Pentecôte tomba et ses frères étaient remplis à la Pentecôte avec le Saint-Esprit? Il ne fallut que très peu de temps jusqu'à ce que le message commence de s'atténuer et il commence d'établir des églises pour tenir la forteresse pour Christ, s'attendant à ce qu'il vienne. Bien, c'est la même chose qui prend place aujourd'hui. Si l'Écriture est juste, je restaurerai, dit le Seigneur, tout ce que le ver du palmier et le ver du chanvre ont mangé. Maintenant, si c'était comme cela, si c'est le message, et que Dieu me pardonne, je ne sais pas, si c'est cela, alors le temps est très proche, vraiment, parce que le message est terminé. Et l'autre soir, je rêvais que j'avais un discernement où une grande multitude, mes amis, étaient rassemblés. Il y en avait des milliers dans une réunion. Un individu va me prendre. Et normalement, Billy vient toujours me prendre parce qu'il ne me parle pas. Et cet homme, il me parla simplement et avant que je n'arrive là-bas, toute l'onction était partie de moi pour cela. Et alors je dis, bien, je vais simplement aller là-bas et je vais prêcher le message en disant à ces gens, ne touchez pas à ces dénominations et ainsi de suite. Et sortez comme cela. Et quand j'arrivais à la plateforme, cela me quitta. Je ne sais pas ce que cela signifiait, mais je continue, je ne sais simplement pas. Cela pourrait être la fin de ma route, cela pourrait être la venue du Seigneur, cela pourrait être le changement de jour, cela pourrait être la venue de ce Tout-Puissant. Et s'il y en a un autre à côté de ce qui est déjà venu, cela pourrait être cela. Ce seraient toutes ces choses desquelles nous devrions puiser. Et comme je me tiens ici ce soir devant Dieu, et vous frères, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Si je le faisais, je vous dirais ou je ne mentionnerais pas, je n'apporterais aucune chose comme cela si je ne savais pas quel chemin. Si je savais comment vont les choses, je dirais ceci, mais je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Je vais maintenant dans des réunions sans un brin de direction. Je vais parce que je ne veux pas être assis ici en haut. J'aimerais partir dans les bois aussi bien que n'importe qui. Si je me trompe dans ceci, que Dieu me pardonne. Trois choses pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route et que cet autre arrive. J'ai ouvert le chemin pour lui, pour continuer. Car rappelez-vous, celui qui vient prêchera, ce sera sur la parole, rétablissant la foi des enfants au Père. Cela pourrait être la fin de ma route. Cela pourrait être qu'il change mon ministère de nouveau dans l'évangélisation pour aller outre-mer. Ou cela pourrait être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il me prendra quelque part dans le désert pour moindre et pour m'envoyer comme celui promis qui doit venir, je pense. Cela pourrait être une de ces choses. Je ne peux pas continuer de la façon que je l'ai fait, parce que les gens m'ont cru. Je dois dire ceci. Je le dis devant les hommes. Les gens très souvent m'ont regardé comme étant un prophète. Je ne me regarde pas comme étant cela. Non, monsieur, je ne le fais pas. Je ne dis pas cela pour être humble. Je dis cela pour être fidèle. Je ne me regarde pas comme étant un prophète du Seigneur. Je n'ai pas cet honneur. Je crois que le Seigneur m'a employé dans de petites choses spéciales, peut-être pour aider à poser une fondation pour un prophète qui viendra. Mais un prophète n'opère pas de la manière que j'opère. Maintenant, vous savez cela, Un prophète n'est pas un évangéliste. Et un évangéliste n'est pas un prophète. Un pasteur n'est pas un évangéliste. Et un évangéliste n'est pas un pasteur. Mais Dieu a mis dans l'Église, premièrement, des apôtres, puis des prophètes, puis des docteurs, puis des pasteurs, et ainsi de suite. Dieu les a mis dans l'Église, et Dieu leur a donné une fonction. Mais le matin, quand je posais cette pierre angulaire, parce que maintenant, si vous êtes spirituel, vous comprenez, parce que le cri des gens, si vous pouviez briser cela au prendre le livre et le lire, il a dit, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Il ne m'appela pas pour être un évangéliste, mais il dit, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Car un temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine, mais ils se donneront eux-mêmes toute une foule de faux docteurs, ayant la démangeaison dans les oreilles, se détournant de la vérité pour se tourner vers des fins. Voyez, il me cita cette écriture, il me dit où la trouver, il me dit trois fois, je pris la Bible, je l'ouvris où il me le dit, et cela était là. Et alors, comme vous savez, concernant les deux sceaux de la Pentecôte unitaire et les assemblées de Dieu, je ne les ai jamais contrariés. Je plantais leurs propres arbres, juste où ils étaient, parce que je crois qu'ils ont tous les deux tort. Mais de cela, j'étais à la croix, à la moisson. Dieu respecte n'importe qui est sincère. Pierre dit, il s'aperçut que Dieu ne faisait exception de personne, appelant toutes les nations quand à la maison de Corneille, quand ils reçurent le Saint-Esprit comme ils le firent au commencement. Vous voyez, Dieu ne fait pas exception de qui que ce soit. Nous voyons une personne profondément sincère être sincèrement dans l'erreur. Mais, si elle est sincère, Dieu la conduira quelque part à la lumière. Elle y viendra, parce que Dieu est obligé de faire cela. Et nous pensons que l'avenue du Seigneur est une si grande chose. Et le message, pas plus qu'il n'est allé, rappelez-vous. Il y a un groupe prédestiné qui sera ici quand le Seigneur revient. Et cela peut ne pas être plus qu'une douzaine. Vous voyez, nous ne savons pas. Oh, il se peut qu'il y en ait 100 millions. Il peut y en avoir 10 000. Mais si les prédestinés veulent écouter le message et le croire, si ceci est le message envoyé de Dieu, ce que nous croyons, maintenant, nous y sommes maintenant. Juste ici, à la fin des temps, quand, si Dieu m'a appelé, maintenant, écoutez, cela ne doit pas être répété. S'il m'a appelé pour être son prophète, alors je ne tiens pas la fonction d'un prophète. Les prophètes n'évangélisent pas. Un prophète se cache dans le désert, tout seul avec Dieu, jusqu'à ce qu'il reçoive exactement, directement ce que Dieu lui veut. Et il sort à pas bruyant, il donne son message, il retourne de nouveau dans le désert. Il n'est pas un évangéliste, tenant des réunions ayant de la coopération et toutes ces choses comme les évangélistes le font. Il n'enseigne pas comme les évangélistes. Il a leur « Ainsi dit le Seigneur ». Et c'est cela, et c'est tout. Il le donne, il le jette dehors, il laisse les éclats tomber où ils veulent, et alors il repart de nouveau. Personne ne sait où il est, et il est quelque part dans l'isolement. Maintenant, je ne peux pas, ou s'il m'a appelé pour être cela, je ne peux pas être un évangéliste. Et s'il m'a appelé pour être un évangéliste, je ne peux pas être un prophète. Maintenant, vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas quoi faire. Je l'ai fait avec révérence quand il me dit tout d'abord de tenir la main des gens et de prier pour eux, et alors que je connaîtrai le secret de leur cœur et toutes ces différentes choses. Et frère, ce fut infaillible. Vous savez que c'est la vérité. Chacun de vous sait cela, voyez. Et comment il me dit que cela éclaterait à travers le monde entier. Et cela se fit juste exactement. Toutes les nations sous le ciel l'ont entendu. Partout. Les journaux, les bandes magnétiques, partout. Je ne sais pas comment cela a jamais pu se faire. Mais à travers le monde entier, des lettres viennent, des personnes, depuis tout là-bas en Thaïlande, tout au fond chez les Ottantos. Comment ces missionnaires se sont pressés là-bas avec ces bandes et ils ont interprété la parole que je prêchais. Maintenant, nous entendons partout dans le monde, vous voyez, tout autour du monde, nous avons des nouvelles de ce message. Maintenant, l'Église est prédestinée universellement, partout. Étant deux dans un lit, deux dans les champs, voyez, il en prendra un et il en laissera un autre. Maintenant, comme j'ai fait l'œuvre d'un évangéliste, et voici ma défense. Si cela fait plaisir à Dieu, et j'ai fait mon travail comme il faut, confiant que je lui ai été agréable, demandant pardon pour toutes mes fautes, alors il se peut qu'il m'appelle du champ d'évangélisation pour être son prophète. Alors, si c'est cela, je quitterai l'évangélisation. Mais s'il m'appelle pour être son prophète, je ne peux pas être un évangéliste. Si je dois être un évangéliste, je ne peux pas être un prophète. Je mélange les deux fonctions. Voilà ce qui m'a toujours tracassé. Debout, sur l'estrade. Cela n'a jamais été bon, plein de succès. Dieu l'a employé, mais je n'ai jamais pensé que c'était sa volonté directe ou parfaite. Cela a été sa volonté permissive. Debout sur l'estrade, une ou deux visions vous feraient presque tomber de faiblesse, voyez. Et alors, si vous dites à cette personne comment se redresser, que faire, la prochaine personne est là debout. Cette personne espère avoir la même chose. Et vous ne pouvez pas lui dire, à moins que quelque chose vous dise de lui dire. Et alors, les autres gens pensent que vous êtes un traître, un relâche ou un démon ou quelque chose parce que vous ne leur dites pas ce qu'ils veulent savoir, voyez. Ce n'est pas la fonction, la façon que le prophète opère. Un prophète se tient ici derrière jusqu'à ce qu'il parte directement à l'hôpital ou quelque part qu'il aille avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Et il le dit et il repart de nouveau. Il n'est pas du tout un évangéliste. Il ne tient pas de réunion. Il ne discute pas de choses. Il a la parole du Seigneur pour où qu'il est allé. S'il est envoyé à la Maison Blanche, il va directement dans la Maison Blanche et c'est « Ainsi dit le Seigneur ». Si c'est au gouverneur de l'État ou quoi que ce soit, c'est « Ainsi dit le Seigneur ». Il ne perd pas son temps avec un groupe d'église, essayant de les amener à venir prendre la parole et prêcher ces choses comme les évangélistes. Il n'est pas un évangéliste. Ainsi, vous voyez, frère, c'est la raison pour laquelle je ne m'appelle pas moi-même un prophète. Je ne suis même pas dans la fonction d'un prophète. Maintenant, vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il y en aurait pour un bon moment à continuer comme cela. Mais j'espère que ne pas prendre trop de votre temps jusqu'à ce que je puisse prendre un petit peu de cette parole que je veux lire ce soir. Maintenant, voici ce que je fais. Je n'ai jamais senti que je devrais vivre en Indiana. Je suis un promeneur. Je vais à un endroit et je pense, j'irai ici, je m'installerai ici en bas, c'est cela. Et je ne peux pas le faire. Quand je vais à un autre endroit, je pense, j'irai ici. Mais quand je fais, ma femme m'appelle. Quel est ce chant qu'il chante? Les vents sans repos. Vous l'avez entendu, je pense. Presque vous tous les avez entendus chanter. Eh bien, c'est ce qu'elle m'appelle. Vents sans repos. À peu près au moment où j'arrive ici, je pense, il faut que j'aille à la maison. Je vais voir ma femme et mes enfants. Il faut que j'aille à l'église une fois de plus et prêcher. Quand j'arrive ici, je descends, je prêche une fois, j'embrasse ma femme, j'étreins tous mes enfants, je sors pour tondre le gazon dans le verger et un avion passe. Je m'arrête, j'essuie la sueur de mon visage et je veux déjà aller avec lui. Je dois aller à un autre endroit. Bien, je pense, je dois aller là en bas et je vais là en bas, je prêche là en bas pendant un moment. Je regarde autour de moi, en voilà un autre qui passe. Je dois aller avec lui. Voyez, pour moi, il n'y a pas une place où je puisse m'installer. Je ne peux simplement pas le faire. Je suis sans repos, me déplaçant d'un endroit à l'autre, quelque chose. Je ne peux rien y faire. C'est quelque chose en moi et je sais que je dois le faire. Maintenant, pour l'Église, dans sa condition présente, je me sentirais affreux de partir d'ici. Et pensez à vous, tous les hommes, assis ici avec qui je crois que je passerai une éternité dans la terre de gloire. Nous avons des hommes excellents, du très bon matériau, des gens droits et solides. Juste récemment, un réveil explosa dans l'église ici parmi les gens. L'esprit vint au milieu d'eux et il commença à nous donner des dons. Et je l'ai observé pour voir si cela dévirait dans du fanatisme. Et toutes les fois qu'il commençait d'aller de ce côté-là, l'esprit l'arrêtait et le ramenait de nouveau ici. Je pensais, loué soit le Seigneur, voyez. Tenez simplement votre place là, c'est bien, voyez. Maintenant, voici ce qu'est ma pensée, c'est, si c'était possible que quand je commence d'aller quelque part, je ne sais pas où je vais, mais je ne peux pas m'asseoir tranquille, et je ne vais pas rester ici, je ne peux simplement pas le faire, je dois aller quelque part, et je ne resterai probablement que quelques jours, et je partirai quelque autre part, je dois aller quelque part, je ne sais pas où je vais. Abraham ne savait pas non plus où il allait. Il traversa simplement la rivière et il partit. C'est tout. Je pense que nous devrions faire ici en ce moment ceci. Je crois que nous avons besoin d'une église. Je pense que la maison de Dieu, vous dites bien, qu'est mettre tout cet argent là-dedans si le Seigneur veut revenir? Bien, quel bien cela fera-t-il de garder l'argent si le Seigneur revient? Et si les gens ont indiqué que cet argent était pour l'église, ce c'est notre devoir, avec 100% des vôtres que j'ai pris ce soir-là, de construire une église. Ainsi, construisez-la. Je dirais, construisez-la. Oui, monsieur. Je n'ai jamais exprimé ceci avant, mais je veux le faire devant vous, les hommes. Je ne voulais pas les femmes ici, parce qu'une pense de ce côté-ci et de ce côté-là. Maintenant, j'essaie de vous dire la raison pour laquelle je veux le faire. Je pense que si le Seigneur revient la semaine prochaine, commençons l'église cette semaine. Certainement, montrons-lui, soyons à notre poste de devoir, oui monsieur. Et alors, si nous, quand l'église est construite, pourquoi? Dites-il, que pensez-vous s'il vient dans 10 ans, s'il vient dans 20 ans, ou s'il vient dans 100 ans? Quoi que cela soit, quand il vient, cela n'a pas d'importance. Nous savons qu'il viendra pour nous avant ce temps-là, parce que nous ne pouvons plus vivre encore 100 ans. Il reviendra pour nous, mais nous devons laisser des rêves derrière nous. Alors je pensais ceci, pourquoi ne pas laisser le conseil de l'église ici, leur parlant maintenant, construire cette église, montez-la, faites-la belle, est un bel endroit où les gens peuvent venir. Je suggère que le frère Neville soit le pasteur de l'église aussi longtemps que l'église le suggère comme pasteur. C'est le vôtre de l'église. Aussi longtemps qu'il tient le poste du devoir et reste avec la foi et veut venir sans la conduite du Seigneur. Puis la conduite du Seigneur pour lui, pour rester, si l'Assemblée vaut cela. Alors je dirais que chacun de ces hommes ici, ces autres hommes, comme frère Craig et frère Junior et tous, aussi longtemps qu'ils sentent leur devoir à ce poste et qu'ils sont associés ici ensemble, vous ne pouvez pas aller vous joindre avec un méthodiste. Vous n'avez pas de fraternité avec eux. Les baptistes, vous parlez sur le parler en langue et le baptême au nom de Jésus, ils vous jetteraient dehors. Frère Branham claque ses doigts, nom de l'éditeur. Aussi vite que cela, c'est juste. Vous vous asseyez là autour, vous seriez comme une colombe parmi une bande de corbeaux. Vous n'auriez aucune fraternité. Vous mourriez. Je ne me moque pas des méthodistes et des baptistes maintenant. Rappelez-vous cela. Maintenant, je ne dis pas cela. Je fais simplement une comparaison. Il y a beaucoup de ces méthodistes et ces baptistes qui sont de bons hommes, des hommes pieux. Mais je parle de la communion fraternelle. Voici le frère. Quel est son nom là derrière ce soir? L'évangéliste assis là derrière, frère J.C. Parnell. Frère Biller, je crois ce frère assis ici. Plusieurs d'entre eux, beaucoup parmi vous, hommes de Dieu, avec un appel dans votre vie, vous pouvez faire quelque chose. Ne restez pas seulement assis. Faisons quelque chose. Si vous ne sauvez qu'une âme, sauvez-la, chacun d'entre nous. Maintenant, je pense que cette église, si vous les hommes, quand vous construisez cette église, vous preniez ceci comme votre quartier général, et frère Neville comme étant en quelque sorte l'ancien supérieur parmi vous, voyez, et quelquefois vous avez une question que vous ne pouvez pas discuter avec votre église là-bas, dehors, alors apportez-la ici à frère Neville, et vous tous, vous en discutez ensemble. Et si vous ne pouvez pas prendre une décision, je passerai par ici très bientôt, alors nous viendrons tous ensemble avec elle. Et alors là-dedans, entraînez dans votre propre groupe d'autres ministres, des hommes que vous voyez avoir un appel dans leur vie pour le ministère. Entraînez ces jeunes hommes, apportez-les ici aux anciens. Vous tous ensemble, asseyez-vous dans une réunion de prédicateurs. Et là, enseignez les choses profondes de Dieu. Ne partez pas par le mauvais bout. Gardez quelqu'un auquel on peut avoir confiance comme en quelque sorte votre conducteur. Et alors, quelquefois, si vous ne le voyez pas exactement de la façon que lui, cela ne fait rien. Vous êtes dans la foi de toute façon. Avancez simplement. Et peut-être quand nous venons ensemble, nous tous ensemble, nous prierons, le discernement de Dieu descendra et il le donnera exactement ce que c'est, voyez. Et il nous laissera savoir juste comment le faire. Et là-dedans, des églises peuvent aller écouter et entraîner un groupe d'hommes. Et si je suis dans une œuvre d'évangélisation quelque part, il y a des endroits dans le monde entier où je peux les placer. Que pensez-vous si j'étais en Inde, si je retournais en Inde? Et là, je dirais à ces gens, peut-être qu'il y en aurait des milliers. Je resterai là pour une semaine ou deux. Ils verraient le ministère, ils l'aimeraient, ils croiraient que c'est la vérité. Ils quitteraient l'athéisme. Alors, et peut-être que dans 2 ou 3 semaines, quand j'étais là-bas pour 2 soirées, il y en a peut-être 100 000 qui se sont convertis à Christ. Aucun endroit où aller. Alors le jour après, j'ai pris l'avion, je pars pour Rome, puis les États-Unis, les laissant juste comme des brebis au milieu des loups. Alors, si j'avais eu un groupe d'hommes, des jeunes hommes, entraînés dans le message, voyez, pour dire, maintenant attendez une minute, avant que je ne parte d'ici, nous allons mettre les églises en ordre. J'aurai un homme à qui j'ai déjà télégraphié, ils ont l'argent, ils sont en route pour venir, ici afin de continuer un excellent homme. Il y a deux ou trois jeunes hommes avec lui qui seront ses aides et assistants. Et une église de cette foi peut être établie là-bas. Ce serait un avant-poste en Inde, un avant-poste en Allemagne, un avant-poste en Suisse. Et pendant que maintenant, nous aurions dû les avoir dans toutes les nations où j'ai été, est le message. Alors de là en vient un autre, d'un autre en vient un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, demain soir ou après-demain soir, vous verrez venir Mattson Bosé qui est mon ami. Vous verrez seulement ce qu'un petit Suédois boiteux a fait là-bas au Tanganyika. Il est là-dedans. Et maintenant, Mattson Bosé, un excellent homme, mais il ne croit pas à la foi que nous croyons. Je l'ai sorti, je l'ai pris, je l'ai ficelé d'une telle façon dans les Écritures. Je lui ai dit, Mattson, tu es mon ami. Maintenant, tu ne vas pas sauter ou courir. Nous voulons simplement rester ici et nous prendre la main comme des frères chrétiens et parler. Vous voyez? Et je lui ai exposé le message. Il se tenait là et disait, frère Branham, vous avez certainement raison. Je dis, maintenant, Mattson, tu ne crois pas cela ou bien alors tu l'accepterais. Mais, frère Branham, je crois que ce que vous dites est la vérité. Alors pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Voyez? Oh, je lui ai tout étalé devant. J'ai tout étalé ça devant lui. Et il. Alors aussitôt qu'il s'en est allé, il était fini. Voyez? Bien. Maintenant simplement, observez ce que cet homme a fait dans sa mission là-bas. Seulement un homme. Parce qu'il pouvait repartir directement à Chicago, prendre Burton et tous les autres, les envoyer là-bas comme cela. Il commence et commencer le travail. Si bien que maintenant, ils sont des dizaines de milliers dans un petit réveil. Pas un homme avec des dons, seulement un homme qui avait assez de courage pour aller là-bas et pour commencer. Qu'est-ce qui ferait fait sans sous ceci? Cela se rangerait dans les millions, certainement. Nous avons perdu ce temps-là. Voilà ce que serait ma suggestion. Maintenant, rappelez-vous, en faisant cela, vous trouverez qu'il y aura peut-être des moments où vous serez en désaccord avec un certain ou un certain frère. Vous ne serez pas d'accord ici. Mais rappelez-vous, aussi longtemps que vous arrivez au point où vous dites « Bien, parce qu'il ne croit pas exactement comme moi, je n'aurai pas. » Alors il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Il n'y a rien de faux chez l'autre gars. Il y a quelque chose de faux chez vous. Quand des frères essayent de tenir ensemble, il y a une chose. Nous les Branham, nous sommes neufs. Nous nous battions comme des petits chiens. Mais après tout, quand nous avions fini de nous battre, nous étions toujours des Branham. L'un savait que l'autre était un Branham. Je savais qu'il était un Branham et il savait que j'étais un Branham. Voyez? Mais nous nous battions. Vous faites cela dans votre famille, mais ils sont toujours vos frères et c'est comme cela. Nous pouvons différer, c'est très bien, mais nous sommes toujours un. Nous sommes un en Christ. Nous croyons à ce message. Nous restons avec lui. Et je pense que c'est la seule chose à faire de continuer comme cela jusqu'à ce que Jésus vienne. Et c'est ce que je voulais dire de cette manière. Et je crois que si vous auriez aimé, vous voyez, vous devez être enthousiasmé avec cela. Si vous n'êtes pas enthousiasmé, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de faux. Vous devez ne pas simplement dire, « Bien, le mois passé, j'étais pas mal enthousiasmé, mais je ne sais pas. » Vous voyez, alors il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Vous devez être enthousiasmé tout le temps, voyez. Vous devez continuer de boxer. C'est le diable qui essaye de vous avoir. Oh, comme j'ai toujours aimé notre président précédent, Monsieur Eisenhower. J'avais beaucoup d'admiration pour le général Eisenhower. Il dit, quand nous battons, il dit, souvent nous prenions un obus, nous le mettions dans le canon, nous tirions sur le chien, nous le laissions tomber, et voilà, l'obus claquait, ne partait pas. Il dit, nous ne nous vendions pas. Il dit, nous en mettions un autre, et il ne partait pas non plus. Il dit, nous n'abandonnions pas. Il dit, nous continuons de les laisser ainsi jusqu'à ce qu'il y en a un qui passe. C'est cela, c'est la façon de gagner la guerre. Continuez d'avancer, jetez l'obus dedans et tirez. Vous avez un propos, une cible à atteindre, et s'il ne part pas, jetez-le loin. mettez-en un autre dedans, et s'il est nouveau, jetez-le dedans, et s'il est nouveau, jusqu'à ce qu'il y en a un qui parte, il y en a un là-dedans qui est vivant, et l'un d'eux partira. C'est de cette façon que nous devons faire. Essayez simplement de tirer, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Qu'est-ce que je fais? Je tire maintenant. Je vais là-bas, ne sachant même pas, sans aucune conduite ou responsabilité. Il y a des millions de personnes qui vous regardent. Qu'allez-vous faire? Que sera le prochain mouvement? Il y en a qui croient que je suis mort. Il y en a qui croient ceci. Même ce sujet qui partit l'autre jour, ils disent que j'ai essayé de me suicider. Vous voyez, là-bas, partout dans le pays et tout, vous voyez. Mais vous avez tout cela à soutenir, alors vous avez le fardeau des gens. Et imaginez-vous seulement, si Dieu plaçait en vous, que vous connaissiez le cœur des gens auxquels vous parlez. Pensez-y. Vous voyez, frère, peut-être, je sais que vous avez des fardeaux, mais vous ne comprenez pas. Et à côté de cela, ici, vous avez la responsabilité ici. Vous dites, bien, cela devrait être facile pour vous, frère Branham. Quoi que vous fassiez, Dieu vous le dit simplement. Non, il ne le fait pas. Je le suis aussi bien que vous, et beaucoup plus durement, certainement. Je dois tuer bien plus difficilement que vous le faites, car il m'en sera plus redemandé. Là où vous avez à répondre d'une église, là où vous avez à répondre de votre famille, ou peut-être pour vous-même, vous voyez, je dois répondre pour des millions d'âmes, et je dois connaître mes mouvements. Et si Satan vous frappe pour une âme ou quelques âmes que vous attraperez, qu'arrivera-t-il ici où il y en a des millions et qui se mettent en ordre? Combien plus d'explosions va-t-il jeter là-dedans? Voyez, ainsi, vous avez beaucoup à vous rappeler, frère. Ce n'est pas étonnant que de temps en temps, je devienne si nerveux, certainement. Mais maintenant, je donne des coups maintenant, je mets l'obus dedans. S'il part, c'est cela. S'il ne part pas, je n'abandonnerai pas. Je jetterai celui-là au loin comme un somat et j'en essayerai un autre. L'un d'eux partira. C'est tout ce qu'il en est. Il y en a un qui tirera quelque part. Alors, je veux atteindre la cible. Alors, quand il partira, je toucherai l'objet auquel je tirerai. Et je, vous comprenez ce que je veux dire. J'en suis sûr. Voyez, il y a quelque chose quelque part. Je pars pour ces réunions, plongeant simplement là-bas. Je n'aspire pas à enseigner ces grandes choses que je vous enseigne ici. Vous vous rappelez ce que ce rêve duquel j'ai eu l'interprétation était? Retourne et emmagasine de la nourriture. Où était le magasin, ce tabernacle? Où y a-t-il quelque chose comme lui dans le pays, n'importe où, qui puisse être comparé à ce message que nous avons? Maintenant, évidemment, nos petits frères ici qui sont là-bas, tout le long, ces autres petites églises, elles sont nous, nous sommes un. Où iriez-vous pour les trouver? Montrez son semblable n'importe où. Vous allez directement dans les credos dénominationnels. Vous irez directement loin du nom du Seigneur Jésus. Vous irez directement loin de ces autres choses, voyez? Et ici est l'endroit où la nourriture a été emmagasinée. Bien, un message que je vous ai prêché à vous tous. Regardez, je vous ai prêché de 1 à 6 heures sur un message. Bien, si je devais prendre un de ces messages, cela prendrait une semaine, en prenant juste un petit peu ici, un petit peu là, voyez? Parce que cela a été emmagasiné ici, c'est sur les bandes. Cela ira dans le monde entier, sur les bandes, ou les gens dans leur maison. Ces bandes tomberont directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la parole. Il dirigera tout juste exactement dans sa direction. C'est la raison qu'il me renvoya pour faire ceci. Emmagasine la nourriture ici. Il m'interdit d'aller outre-mer. Le frère Argan Braille dit, viens, viens, partons, tu as une soirée. Mais nous te ferons passer un voyage touristique tout autour du pays. La façon que je vis frère Fred et frère Van essayaient d'aller, je dis, je n'irai pas de cette façon-là, voyez. Cela montrait qu'il y avait autre chose. Je suis arrivé jusqu'à la marque maintenant, mais je ne sais pas de quel côté aller. Mais il y a de la munition placée tout autour de moi. M'a-t-il rappelé dans l'évangélisation? M'a-t-il appelé pour des missions étrangères? M'a-t-il appelé pour être son prophète? Dois-je aller faire le pasteur quelque part? Quoi que je doive faire, je continuerai à jeter les obus dedans et à tirer sur le chien. L'un d'eux partira. Mais je ne resterai pas pour regarder et dire, Seigneur, tu mets l'obus dans le canon. Non, je mettrai l'obus dans le canon et je tirerai moi-même. Laissons-le faire feu. Il est celui qui prendra soin de cela. Laissez-moi juste continuer. Et quand je vais dans ces réunions maintenant, je vais simplement en avant, je ne sais pas. Je peux ne pas dire une chose concernant ces messages, comme je les prêche ici. Je peux ne même pas avoir une soirée de discernement. Je ne sais pas. Je vais seulement, ne sachant pas ce que je vais faire. Je ne pourrais vous dire, je vais simplement. Et c'est seulement, et c'est de la façon que vous devez faire. Vous avez quelque chose dans votre esprit. Les gens ici veulent une église. Construisez-la aussi rapidement que vous le pouvez. Montez-la, trouvez vos enseignants et choses. Vous, frères, tout là-bas avec vos petites églises, et vous voulez, vous faites un travail. Dieu vous récompensera pour cela. Allez là-bas, prêchez, faites tout ce que vous pouvez. Dieu vous récompensera pour cela. Que vous tous, les hommes, vous retrouvez ensemble et ayez des réunions. Parlez sur des choses profondes des Écritures et priez. Ne venez pas simplement ici, ensemble, rien que pour une réunion de prière seulement. Faites vos prières dans le secret. Restez dehors dans l'endroit. Allez dans vos chambres. Cachez-vous quelque part et agenouillez-vous simplement là. Et restez simplement devant Dieu et restez là. Alors, si vous trouvez qu'il semble que quelque chose va se passer, oh, vous allez simplement et vous réalisez que cela va un petit peu à côté de la parole, alors faites attention. Qu'importe combien cela semble juste, arrêtez-vous directement là. Un mauvais esprit vous attrape. Car le message du jour est à la parole. Vous voyez? Ne. Voyez si vous dites, oh non, frère Branham, je vous le dis ceci et cela. Pourquoi? Ceci et cela arriva l'autre soir et cette autre chose arriva comme cela. Observez-la. Observez-la attentivement. N'y renoncez pas. Attendez simplement et voyez comment cela réagit. Et alors, apportez-le à la parole. Et regardez comment cela se compare avec la parole. Alors, si cela se compare avec la parole, tout est bien. Remerciez Dieu et continuez simplement à avancer alors. Voyez, simplement pour aussi longtemps que cela reste avec la parole. C'est mon opinion, ce que je pense que vous devriez faire. Et frère Neville, frère Ruddle, frère Chris, frère Biller, et vous tous ici, frères, Juni ou que vous soyez, et vous tous frères, que Dieu vous bénisse richement. Je vois Terry, Lynn, Charlie Cox, David, beaucoup de vous jeunes hommes ici. Que Dieu vous soigne. Combien nous aimerions saisir une poignée de vous pour être des évangélistes et vous placer quelque part, voyez, sachant que vous avez grandi. Vous pouvez accepter, vous connaissez le message, étudier pour vous éprouver vous-même. Si vous sentez un appel dans votre vie, je vois deux ou trois jeunes hommes, quatre ou cinq assis dans une autre rangée là-bas derrière. Et comme cela, vous êtes des jeunes hommes. Je deviens vieux. Frère Neville devient vieux. Nous sommes des hommes d'âge mûr. Si le temps continue, nous allons sortir de la scène après un moment. Vous devrez remplir nos souliers, vous voyez? Et ainsi, vous voyez? Alors peut-être, dans ce jour-là, il se peut que cela deviendra encore plus grand, s'il y a un lendemain. Mais pendant qu'il y a un aujourd'hui, travaillons pendant qu'il fait jour. Demain ne pourrait jamais venir. Et s'il vient, soyons prêts. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, voilà ce que je penserai de vous. Ne serait-il pas merveilleux de voir frère, là-haut, d'Utica, frère Quiz, vous tous autres frères, venir ici ensemble, vous rencontrer, venir à un endroit, vous prédicateurs, vous asseoir ensemble et discuter des choses. Vous devez avoir de la fraternité quelque part. Vous devez avoir quelque chose pour venir ensemble, pour en quelque sorte vous retrouver ensemble. Vous venez tous ensemble comme un groupe d'hommes. Vous croyez l'un avec l'autre et comme cela, vous discutez de ces problèmes et vous vous retrouverez peut-être une fois par mois. Seulement les prédicateurs ensemble. Rencontrez-vous quelque part dans l'une de vos églises. Asseyez-vous là et discutez-en, parlez-en, chacun de vous, pasteur et évangéliste, et qui que vous soyez. Et alors, si quelque grand problème arrive que vous ne pouvez pas résoudre, alors si je suis appelé dans le champ d'évangélisation, je ne sais pas ce que je serai. Et si je le serai, vous savez que je reviendrai constamment tout le temps. Et alors, si vous avez ces choses, alors, quand je reviens ici, nous réunirons ensemble et nous assierons ensemble, simplement. Et si l'un de vous a un appel dans votre vie, nous n'aurons pas l'entrevue privée et les choses que nous avons eues. Nous allons tout simplement venir ensemble et rester là jusqu'à ce que nous ayons ainsi dit le Seigneur. Et si vous pouvez avoir les prédicateurs droits et lui allant juste, regardez ce qu'il va faire. Il va influencer une. Cela prendrait soin de centaines de ces choses. C'est cela. Nous frappons justement là-dessus, voyez. Vous devez y introduire un système, le système de Dieu. Comme Jéthro dit à Moïse, pourquoi tu ne peux pas tous les battre, mais et Dieu mit des anciens là-bas, 70. Il prit l'esprit qui était dans Moïse et il le mit sur ses 70 anciens et ils prophétisèrent. Et cela n'affaiblit pas du tout Moïse, cela lui donna des forces. Il avait juste autant de prophéties en lui qu'il en avait avant qu'il ne prenne l'esprit de lui pour prophétiser. Voyez, il sépara simplement et dit, maintenant Moïse, laisse-les juger les plus petites choses, mais quand cela arrivera à des choses majeures, tu iras avec eux et tu les aideras comme cela. Maintenant, c'est la manière juste. C'était la manière de Dieu en ce temps-là. C'était la manière de Dieu dans l'Église primitive. Et je crois que c'est la manière de Dieu maintenant. C'est juste pour nous de le faire. Ainsi, faisons-le. Arrêtons simplement d'en parler et faisons-le. C'est tout. Nous pouvons le faire par la grâce de Dieu. Ne le croyez-vous pas? Maintenant, voyons. Oh, j'ai employé tout mon temps. Mais Billy a écrit quelque chose ici. Juste une minute. Je verrai ce que c'est. Je suis de New Albany, fille, grâce, hôpital mémorial, casse à son bras, veut des prières pour elle, T-R-O-U-B, W-C, trouble, quelque chose comme cela. Prions pour cette jeune dame. Notre Père Céleste, comme nous parlons maintenant, et je pense que peut-être quand Irénée regarda tout son petit groupe d'hommes, c'est peut-être un bien plus petit groupe que celui qui est ici ce soir. Ils n'avaient pas un siège pour s'asseoir. Ils étaient assis sur de vieilles tables de pierre froide, et ils étaient assis là et ils leur parlaient. Ces hommes sortirent. Même qu'en allant, ils savaient qu'ils pourraient être donnés en nourriture aux lions, leur tête décapitée. Mais la foi de mon père est toujours en vie, malgré les cachots, les flammes et l'épée. Je te remercie pour ces hommes, Seigneur. Je prie que tu les bénisses. Maintenant, bénis chacun d'eux dans ton nom, que tu les garderas dans la foi qui fut une fois délivrée aux saints, qu'ils ne varient jamais de cela. Et de ce groupe, puisses-tu envoyer des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Ô Dieu, accorde-leur, et qu'ils tiennent la forteresse partout où qu'ils aillent, qu'ils travaillent continuellement jusqu'à ce que Jésus vienne. Et maintenant, Père, je prie pour chacune de ces demandes qui sont venues ici ce soir et demande que tu te rappelles de cette petite dame là-en bas qui vient de casser son bras. Que la puissance du Dieu Tout-Puissant la guérisse et la remette bien. Accorde-le, Seigneur. Je prie afin que tu l'aides et la bénisses. Bénis ces bien-aimés pour avoir appelé et que la puissance qui ressuscita Jésus de la tombe ressuscite cette fille. Que son bras guérisse. Toutes ces demandes qui ont été mentionnées ce soir, ce pauvre garçon couché là qui a cette, j'ai entendu le frère l'annoncer, que la maladie de Hodgkin a tellement rongé que son visage est brûlé avec du radium et des choses qu'il lui donne. Dieu, aie pitié de ce garçon, laisse-le vivre. Nous pensons à cet homme qui ne s'est pas préparé à te rencontrer et qui est parti maintenant. Sa femme avec la tête brisée, l'enfant adopté. Tous ces autres, sœur Bruce ramassant cette eau, elle devient vieille père, et là elle brûle à ses bras, et en haut et en bas de son corps. Nous prions pour elle, elle est probablement hospitalisée, et nous prions que tu la délivreras et la sortiras. Accorde-le, Père. Nous demandons ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux vous demander quelque chose, et vous demander si vous croyez que nous avons le temps pour un tout petit peu de la parole, l'avez-vous? Seulement pour, maintenant c'est, je sais que c'est un peu tard, mais j'avais un petit quelque chose ici, à quoi je pensais aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler juste pour une minute, et cela pourrait vous aider. Et j'ai pensé premièrement que j'annoncerais ceci. Maintenant c'est sur cette bande, et si quelqu'un désirerait s'y référer, Jim l'aura, voyez, sur ce que je pense qui devrait être fait. Et maintenant, que devrait-il être fait pour vous, frères? Maintenant, savez-vous, quand ces premiers hommes sortirent, quelquefois, il y en avait seulement 6 ou 8 ensemble, et ils firent trembler le pays. Bien, vous savez quand Aquilas et Priscille, ce grand réveil qu'Apollos avait là-bas, il n'y avait environ que 6 ou 8 hommes et femmes dans ce groupe. Toute cette église signifiait 6 ou 8. Vous en avez 5 ou 6, 7 fois plus ce soir qu'il en avait alors. Vous savez, Jésus n'avait que 12 apôtres. Nous pensons toujours à quelque chose de grand. mais Dieu n'habite pas dans ces grands nombres. C'est dans ces petits groupes qu'il l'a, voyez. Regardez en descendant les âges. Chaque fois qu'il rencontra les hommes, c'était dans de petits groupes. Vous voyez, il leur parla, il les ordonna. C'est le bon plaisir de Dieu de faire cela. C'est de la façon qu'il aime le faire. Et maintenant, nous voulons seulement garder Dieu au milieu de nous et aller faire ces choses. Maintenant, dimanche matin, le Seigneur voulant, je vais vous parler sur l'évangélisation au temps du soir. Et alors si le Seigneur le permet, je partirai probablement jusque tard cet automne et avant que je ne revienne de nouveau, et je reviendrai probablement quelque part autour de septembre. Et maintenant, j'espère que jusque-là, tout ira merveilleusement pour vous, frères, et vos réunions grandiront en nombre, et que la grâce de Dieu soit sur vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Et je suis sûr que vous prierez pour moi dans le succès. Rappelez-vous dans vos prières, rappelez-vous pour moi. Cela veut dire que vous êtes mes collègues, vous êtes mes compagnons, mes aides. Et ensemble, nous sommes des aides dans le Seigneur. Et maintenant, quand je me tiens là dehors devant l'ennemi, je veux me rappeler que des soldats fidèles et justes, dont les prières pour les malades et les affligés sont entendues, que ces hommes prient pour moi. Je suis celui qu'on a besoin là dehors. J'en ai vraiment besoin. Ainsi, vous priez tous pour moi. Quand vous vous rassemblez, ne m'oubliez dans aucune réunion. Priez pour moi. Maintenant, dans Saint Jean, le 9e chapitre, je veux lire du 26e verset jusqu'au 35e. Maintenant, seulement pour quelques minutes, et alors nous terminerons dans les prochaines 20 ou 30 minutes, ou peut-être avant cela, le Seigneur voulant. Maintenant, je veux lire ces écritures, maintenant, de Saint Jean, chapitre 26, à Saint Jean 10, 9, 26 à 35. J'ai quelque chose écrit ici à quoi je pensais justement. Alors, ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un vénère Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exaucera. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas là de la part de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché. Et c'est toi qui nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Maintenant, j'aimerais vous parler seulement pour quelques minutes, frères, sachant que mon petit langage ici, je ne sais pas ce qu'il en adviendra, mais étant assuré que Dieu l'emploiera de quelque manière. Et maintenant, dans ceci, sur sa parole, ainsi je sais que frère Singh, frère Neville, ou l'un de vous ministres prêchez normalement, mais simplement étant avec vous, pardonnez-moi, j'aimerais simplement vous parler un petit peu sur ce thème. Maintenant, je vais prendre un sujet ici, se ranger du côté de Jésus. Les pharisiens, les responsables de son temps, cherchèrent toujours à le minimiser devant le peuple. C'était seulement la façon que le diable travaillait. Tous les pharisiens, les enseignants de son temps, essayèrent constamment de minimiser Jésus. Chaque fois qu'ils le purent, ils essayaient de le dépister. Ils l'observèrent continuellement pour trouver où ils pourraient trouver une faute. Et ils ne parlèrent jamais de ces bonnes choses. Ils trouvaient toujours quelque chose par lesquelles ils pouvaient le minimiser et dire, « Vous voyez, regardez ici, si c'était un homme de Dieu, il ne le ferait pas de cette manière. » Ou, « Si c'était un homme de Dieu, il ne le ferait pas de cette façon. » Ils essayaient de jeter une ombre sur lui pour persuader le peuple de ne pas le croire. C'est le travail du diable. Et ce vieux projet n'a jamais cessé. Souvent, un prédicateur fera une faute. Et s'il arrive dans un certain voisinage, un précieux frère qui essaye de faire ce qui est juste et de conduire les gens justes, tout ce que le diable pourra montrer à l'incrédule ou au soi-disant chrétien dans ce voisinage pour faire du tort à cet homme, il le fera. Vous savez, la vraie façon chrétienne est de cacher tout ce que vous pouvez d'un frère. Ne parlez pas de ces mauvaises choses, parlez seulement de ces bonnes choses. Dites seulement ce que vous savez sur lui qui est bon. Et si quelque chose est mauvais, laissez-le de côté. Le pauvre gars en a de toute façon assez contre lui. N'essayez pas de prendre une perche et de pousser un homme plus profondément dans le canal. L'attitude chrétienne est de le saisir et de le sortir du canal. Vous voyez? N'essayez jamais de le pousser plus bas. Il est déjà en bas. Essayez de l'aider à sortir. Eh, mais il y en a trop aujourd'hui. Trop de gens aujourd'hui. Je devrais dire, essaye de faire cela. S'il pouvait seulement prendre quelque chose ou autre qu'il pourrait dire qui est vraiment mal. Maintenant, par exemple, si un de vos frères ou si un de vous frères faisait une faute et ferait quelque chose de faux, quelque chose à quoi vous êtes sujet, je le suis aussi, chacun de nous. Mais quand nous avançons, rappelons-nous que nous sommes des frères. Et si nous avons des luttes, luttons l'un avec l'autre. Apportez cela ensemble. Apportez-le devant nos frères et arrangez cela. Maintenant, dans la famille Branham, si un des petits avait fait quelque chose, ils allaient le dire à Bill, parce que j'étais le plus grand. Et je devais me tenir là et dire qui avait raison et qui avait tort. Bien, ma décision était que celui-ci avait raison et si l'autre avait tort, alors s'ils ne me croyaient quand même pas, ils allaient derrière mon dos et ils le départageaient dans une autre bagarre. Mais c'était toujours des frères, vous voyez. Ils se battaient derrière la maison, l'un avec l'autre, mais ils se battaient devant la maison, l'un pour l'autre. Ainsi, voilà comment c'était, vous voyez. Et cela, nous sommes toujours des frères. Bien, c'est de la façon que nous devons faire ceci, vous voyez. Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, votre frère, ne le dites pas à quelqu'un d'autre si c'est faux. Allez vers lui et dites-le lui. Et alors, s'il argumente avec vous, alors prenez quelqu'un d'autre avec vous. Alors apportez-le de la façon que la Bible dit. Mais Jésus, ils essayèrent seulement de trouver toutes les petites ombres qu'ils pouvaient trouver pour le minimiser à la vue des gens. Et c'est ce que le diable veut. Ils veulent nuire à votre influence devant les gens. C'est la façon que vous voulez faire attention à ce que vous dites. Marchez comme de vrais hommes de Dieu. Parlez comme des hommes de Dieu. Agissez comme des hommes de Dieu. Vivez comme des hommes de Dieu. Parce que le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, essayant de dévorer qui il peut. Pourquoi ont-ils fait ceci? Ils étaient jaloux de lui. Voilà la raison pour laquelle ils essayaient de le minimiser. Ils étaient jaloux de son ministère. Et c'est la raison pour laquelle ils essayaient de l'amoindrir. Mais il avait le ministère de Dieu. Et ils le savaient. Mais c'était contraire à leur credo. Aussi, ils essayaient de l'amoindrir. Faire de tout ce qu'ils, tous les petits défauts qu'ils pouvaient trouver, l'écarter du chemin. Ils voulaient qu'il arrête. Ils voulaient que le peuple dénonce. Ils voulaient dire, maintenant cet homme n'est rien. Regardez ici. Maintenant il est là. Il a fait ceci. Et vous savez que ce n'est pas juste. Nous avons été enseignés toute notre vie que nous devrions croire les anciens. Et le voici, il se tint juste là. Il injuria cet ancien. Il n'est pas d'accord avec la tradition des pères. Et nous sommes, et nous devons croire les traditions de nos pères. Chaque rabbin nous a enseigné cela tout au long de ces années. Et voici cet homme qui vient et qui n'est pas d'accord avec eux. Voyez? Mais un homme comme ça n'est pas apte à être un prédicateur. Voyez? Ils essayaient de l'amoindrir. Mais dans tout cela, ceux qui le croyaient et qui l'aimaient et qui avaient vu ses miracles scripturaires et ses signes, ils n'étaient pas gênés par eux. Non, monsieur! Ceux qui le croyaient, le croyaient. Ceux qui l'aimaient, se tinrent près de lui. Ils ne voulaient pas voir ce que les autres leur montraient. Oh, si nous pouvions être cela, si nous ne pouvions simplement pas voir, si quelqu'un venait ici autour et disait, vous savez quoi? Ils disent que vous êtes un pentecôtiste. Oh, pas par la dénomination. Bien, vous êtes de cette sorte qui baptise dans le nom de Jésus. Oui, c'est juste. Bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Je connais un homme qui était baptisé une fois comme cela, et il a fait ceci et ceci et ceci. Mais regardez, cela n'a rien à faire avec ceci. C'est le diable essayant de jeter une ombre sur vous. Ils essayent toujours de vous montrer quelque vieux bateau qui a fait naufrage sur le rivage, mais ils ne vous montrent pas celui qui a fait le voyage en sûreté. C'est juste, voyez, c'est juste. Ils essayent toujours de jeter un appât au corbeau et dire, voilà l'exemple, voilà ce qui se fit. Oh, je connais un certain prédicateur qui était un prédicateur de la sainteté, et il fit ceci, cela ou l'autre, mais il ne montre pas les autres qui n'étaient pas de la sainteté qui l'ont fait aussi. Vous voyez? Et il ne montre pas les grandes choses que Dieu a faites. Comme quelqu'un qui dirait, oh, ici cet homme est allé trop loin, il est allé trop loin, il a peut-être fait cela, il se ruina lui-même, il alla trop loin, il devint un fanatique, il a peut-être fait cela. Mais pendant qu'il vous montre combien un est allé trop loin, que pensez-vous de ces millions qui ne sont jamais allés assez loin? Ils manquèrent de voir cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Ainsi le peuple essaya, ces pharisiens, ces sadducéens, ces hypocrites, ces hérodiens, tous essayèrent de jeter une ombre sur Jésus. Mais ces véritables croyants qui étaient prédestinés d'écouter ce message l'écoutèrent et ils ne virent aucune faute dans celui-ci. La même chose maintenant, ceux qui le croient l'aiment. Ceux qui le croient ne voient aucune faute en lui. Ils ne voient pas d'hérésie, ils ne voient rien de mal. Ils ne voient rien de mal avec sa parole, ils ne voient rien de mal avec son peuple. Ils voient seulement Jésus et c'est tout. Ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ainsi, ils se rangent simplement du côté de Jésus et ils restent là. Nous avions l'habitude de chanter un petit chant. Frère Roy Robertson, nous avions l'habitude de chanter un petit chant ici. Je pense, avant que vous veniez ici, qui dit, je prendrai le chemin avec les quelques méprisés du Seigneur. J'ai commencé avec Jésus et j'irai jusqu'au bout. J'aime mieux marcher seul avec Jésus et avoir pour oreiller comme Jacob une pierre. Vous avez entendu ce petit chant, c'est juste. J'aime mieux prendre le chemin où je suis méprisé, prendre le chemin des méprisés, prendre le chemin de ceux dont on parle et marcher avec Jésus. Je ne vois aucune faute en cela, ne voyant pas l'erreur de l'autre gars, avançant simplement, c'est tout. Maintenant, voilà ce qu'ils firent à Jésus. Et vous devez apprendre à votre peuple, vous les pasteurs, à faire la même chose. Si quelqu'un vient par ici et dit, ah ah, vous savez votre église, il y avait tel et tel, ils n'ont pas. Oui monsieur, il y en a peut-être une douzaine assis là, alors, mais que pensez-vous de celui-là qui est assis là et qui est bien? Vous voyez, vous ne pouvez simplement pas voir la forêt à cause des arbres, c'est tout. C'est cela, juste de nouveau, voyez maintenant. Et ainsi ils essayent. Ils ne voulaient pas admettre qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Ainsi, ils essayaient de semer la discorde, d'amener les gens à ne pas croire. Mais ces gens qui croyaient en lui restèrent avec lui. Ils prirent position. Vous savez, je pensais ici, une ou deux personnes que j'ai écrites ici. L'homme aveugle ne voulait pas être changé par eux. Cet homme à qui il avait juste donné la vue. Nous connaissons l'histoire. Et il leur donna à côté de cela une question brûlante. Maintenant, ils vinrent là-haut. Jésus passa par là. C'était un homme qui était méprisé et haï. La Bible dit qu'il serait rejeté, hein, qu'il n'y aurait en lui aucune beauté que nous pourrions désirer. Et nous tous, comme des brebis, nous sommes égarés. C'était un homme de douleur, accoutumé au chagrin. Et comment toute la Bible dit ce qu'il serait? Il serait méprisé, rejeté. Et nous voyons cet homme. Maintenant, ceux qui croyaient la parole, ils savaient que les choses même que Jésus faisait, et les choses étaient de sa vie. Il savait qui il était. Ainsi, il ne pouvait rien mettre de néfaste sur lui, parce qu'il ne pouvait pas le voir. Et vous savez, l'amour est aveugle de toute façon à ces choses. L'amour couvre une multitude de péchés, vous savez. L'amour parfait chasse la crainte, et le péché est toute discorde. L'amour le fait. Maintenant, l'homme aveugle était assis là-bas. Et Jésus et ses disciples passèrent par là. Et je crois que Jésus leur donna une petite leçon ici. Quand ils virent ce pauvre homme aveugle, ils pensaient, bien maintenant, certainement, il y a le péché derrière cela quelque part. Quand nous voyons que quelque chose arrive à un homme, nous disons toujours, oh, il a péché, il est sorti de la volonté du Seigneur quelque part. faire cuire, à toucher le poteau. Il est sorti de la volonté du Seigneur, quelque part dans l'idée de quelqu'un. Et quand le coup de mon fusil m'échappa, oh, il était hors de la volonté du Seigneur. Frère Neville touche à la voiture, il était hors de la volonté du Seigneur. Ce n'est pas exactement juste. Non, monsieur, cela ne l'est pas. Dieu permet ces choses. Jésus se retourna et leur enseigna une petite leçon. Ils dirent, son père doit avoir péché, ou sa mère a péché, ou bien lui a péché. Jésus dit, aucun d'eux ne péchait, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit rendue manifeste. Amen. Vous voyez, Dieu laisse les choses se passer juste afin que l'œuvre de Dieu soit rendue manifeste. Maintenant, et ainsi il dit, il parla à l'homme et lui rendit la vue, et il continua son chemin. Et voici qu'arrivent les pharisiens quand les rumeurs furent entendues. Voici un homme qui était aveugle, assis là, mendiant, et voici, il pouvait voir. C'était une rumeur parmi eux. Eh, oh, cela retourna quelque chose. Les voici qui arrivent là-haut. Ils virent que l'homme aveugle pouvait voir. Et premièrement, ils vinrent. Ils voulaient trouver une façon de mettre une crainte sur tout le peuple, car ils avaient déjà dit, si quelqu'un va après cette nouvelle doctrine et ce nouveau prophète appelé Jésus de Nazareth, immédiatement, leurs papiers leur seront rendus et la communion avec l'Église brisée. Ils ne pourront plus venir à la synagogue. Et si vous vous associez avec lui, si vous allez à ses réunions ou n'importe quoi d'autre, vous ne pourrez plus venir ici. Ainsi, il voulait faire un grand étalage de cela, parce qu'il le haïssait. Il ne pensait pas à ce pauvre homme aveugle, mais il voulait faire un grand étalage afin que le peuple ne reste pas avec lui. Ils dirent qu'ils voulaient le demander à son père, à sa mère. Ainsi, ils allaient chercher le papa et la maman. Ils dirent, est-ce bien votre fils? Il dit, oui, monsieur. Est-il né aveugle? Oui, monsieur. Et comment cela se fait-il qu'il voit? La Bible dit que le père et la mère avaient peur, car ils savaient qu'il serait jeté hors de la synagogue s'il l'admettait. Voyez, là, il fut abaissé. Ils dirent, maintenant, nous savons que c'est notre fils. Oh, il y avait probablement quelques milliers de personnes là debout. Mais s'il pouvait, si ces pharisiens puants pouvaient seulement mettre un blâme sur son nom juste là, ou faire quelque chose pour apeurer les gens, il l'aurait sorti de là pour cette réunion. Voyez, toute son influence serait perdue. Ainsi ils dirent, une de ces bandes avec des vêtements de prêtre allèrent là-haut et dirent, parlez pour lui et dirent, nous savons que c'est notre fils, nous savons qu'il est né aveugle, mais comment il voit, je ne le sais pas. Demandez-lui, il a l'âge, voyez. Très bien. Ainsi, ils allèrent là-bas et ils le prirent. Ils dirent, qui t'a redonné ta vue? Comment as-tu été guéri? Il dit, un homme appelé Jésus de Nazareth m'a donné ma vue. Et ils dirent, rends gloire à Dieu. Ils dirent, nous savons que cet homme est un pécheur. Ils dirent, un, et dirent, d'où est-il? Il dit, je ne sais pas. Il passa simplement et il me guérit. C'est tout ce que je sais de lui. Je sais une chose que je sais. Je ne pourrais pas vous dire si c'est un pécheur ou non. Je ne sais pas. J'ai seulement rencontré l'homme aujourd'hui. Mais si, s'il put me donner ma vue, je sais cette chose-ci. Alors que j'étais aveugle, maintenant, je vois. Je suis sûr de cela. Car il y a une demi-heure, j'étais aveugle. Et maintenant, j'ai une aussi bonne vue que vous tous. Ainsi, je sais que je peux voir. Oh, quel aiguillon cela mit en eux. Ainsi, ils pensèrent. Pourquoi? Il dit, voulez-vous tous être de ses disciples aussi? C'est bon, c'est un témoignage bon et solide, c'est bien, c'est un bon fond, voyez-vous? C'est du vraiment bon témoignage, c'est ce que je dirais. Il dit, voulez-vous tous? Voici un laïc, un homme aveugle, debout dans les rues, après avoir rencontré Jésus, maintenant demandant aux pharisiens s'ils veulent être de ses disciples, eux les évêques, les chefs. Voulez-vous aussi être de ses disciples? Ils dirent, non, 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 tu es de ses disciples. Nous sommes les disciples de Moïse. Regardons en arrière à travers l'histoire. Vous savez, nous sommes les disciples de Moïse. Cet homme, nous ne savons rien de lui. Nous ne savons pas d'où il vient. Bien, nous n'avons aucune règle d'aucune de nos écoles où il soit jamais venu. Il n'est jamais rien venu nous demander sur ces choses, voyez. Nous ne savons rien de cela. Vous, les gens là-bas, vous réalisez que cet homme n'est pas ordonné. Cet homme est un devin ou quelque chose. C'est Belzébul, vous avez été ensorcelé, il n'a aucune autorité, nous ne lui en avons pas encore donné, vous voyez, nous ne savons même pas d'où cet homme vient. Et ce vieux garçon qui pouvait voir disait, maintenant, c'est une chose merveilleuse. Vous voyez, il est en train de rendre les gens abattus. Ces pharisiens l'étaient. Il leur faisait peur, voyez. Mais ils s'étaient rangés du côté de Jésus. Vous voyez, ainsi il dit, c'est une chose merveilleuse. Laissez-moi le décomposer dans les quelques mots qu'il aurait pu dire. Maintenant, vous les gars ici autour, vous avez conduit toutes ces choses religieuses pour des centaines d'années, et eux, vous parlez d'un Messie qui va venir, et que quelque chose va se passer dans l'ombre du temps, quand le libérateur viendra nous voir. Et vous nous dites que quand il vient, que tout ce qu'il va faire, et vous, ici, les chefs spirituels, les grands prêtres, les prêtres de cette communauté, debout ensemble ici devant ces gens, essayant de noircir son nom, essayant de dire quelque chose de méchant contre lui, et l'homme est venu, il a ouvert mes yeux aveugles, je suis né aveugle, voici mon père et ma mère qui donnent le témoignage que je suis né aveugle, assis ici au milieu de vous, pour toutes ces années, né aveugle, et cela ne s'est jamais produit depuis que le monde commença. Et ici, un homme peut venir et faire un miracle qui n'a pas été fait depuis que le monde commença. Et vous, les chefs spirituels, vous n'en savez rien? Je dis que c'est une chose merveilleuse. Il se mit du côté de Jésus. Vous voyez? Il fut permis qu'il soit aveugle, afin que l'œuvre de Dieu soit rendue manifeste. Vous voyez? Car il se mit du côté du Seigneur Jésus. Il se rangea de son côté. Maintenant, il leur mit un aiguillon. Vous savez ce qu'ils firent? Ils dirent, maintenant nous savons que tu es né dans le péché, et tu essaies de nous enseigner. Ils le jetèrent hors de l'église. Ils lui firent perdre connaissance. Ils le poussèrent dehors, ils le jetèrent dehors. Mais aussitôt qu'il fut jeté dehors, avez-vous remarqué? Jésus le retrouva de nouveau. Amen, amen. Jésus le retrouva de nouveau. Ainsi, ne vous en faites pas s'il vous jette dehors. Il vous retrouvera de toute façon de nouveau. Vous voyez? Très bien. Et il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, Seigneur, qui est-il? Il ne le savait même pas. Mais la seule chose qu'il savait, c'est qu'il avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. Oh, je sais cette chose, frère. Ils peuvent appeler cela du fanatisme ou ce qu'ils veulent. Mais alors qu'une fois j'étais un pécheur, maintenant je suis venu dans sa grâce. Quelque chose m'est arrivé, voyez, je sais cette chose maintenant, en ayant confiance en sa parole. En le croyant, j'ai été rejeté de toutes les organisations religieuses sous la face du ciel. Il n'y a plus aucune d'elles qui veut encore me recevoir. Vous savez tout cela. Il y a des hommes qui le veulent ici dehors. Des hommes bons veulent m'accepter. Mais toutes les organisations religieuses m'ont repoussé, c'est juste. Mais il m'a trouvé. Il me trouvera une place ici ou à une autre, c'est juste. Venez comme cela, et ainsi cela sera bien, parce que nous voulons nous ranger du côté de Jésus. Et la seule façon que vous puissiez vous ranger du côté de Jésus, c'est de vous ranger sur ce qu'il a dit, croyant sa parole. Ainsi, rangeons-nous de son côté. L'homme aveugle leur donna un vraiment bon témoignage. Très bien. Nous trouvons de nouveau qu'ils essayèrent de salir son nom. Juste pour un petit peu, tu dois sauter par-dessus quelque chose ici, ainsi. Un jour, il y avait un pharisien. J'ai prêché sur cela il n'y a pas longtemps. Et je l'ai appelé lavant les pieds de Jésus. Je crois que vous m'avez tous entendu prêcher sur cela ici. Quand un pharisien demanda à Jésus de descendre et de venir dans sa maison, un grand vieux pharisien bien empesé, et lui demanda de venir. Et vous savez, j'y ai donné un petit drame. Comment le courrier est venu et l'a trouvé, et il descendit, bien qu'il sache qu'il était haï. Il alla de toute façon, et quand ils l'eurent là-dedans, ils ne lavèrent pas ses pieds. Ils le laissèrent s'asseoir, sentant mauvais, et toutes ces autres choses, de la peine de la route, et là il s'assit. Et une petite femme vint. Ils pensèrent, oh, le Seigneur est bon pour nous, parce que regardez, cela va juste apporter à notre grande partie. Voyez, ils l'avaient là seulement pour se moquer de lui. Ils l'amenèrent là seulement afin qu'ils puissent rire de lui. Et maintenant, ils pensaient que le Seigneur travaillait avec eux, parce que cette femme prostituée de mauvais renom vint là, et pleurait, elle avait ses pieds avec ses larmes, et les essuyant avec ses propres cheveux. Et un vieux pharisien, et tout le reste des prêtres, debout dans un coin, dire, frères, tout. Le Seigneur a fait cela exactement pour nous. Maintenant, nous pouvons vraiment salir son nom. Il s'appelle un prophète. Le peuple croit que c'est un prophète. Et il l'appelle le prophète galiléen. Et il prétend même être le Messie. Et nous savons que le Messie sera un prophète. Et il est assis là. Vous voyez où nous l'avons amené? Regardez-là. Nous le tenons vraiment maintenant. Là, il est assis là-bas derrière. Voûté comme un freluquet éreinté ou quelque chose là-bas derrière. Et quelque prostituée de sa propre classe est venue. Elle a ses pieds comme cela. Et maintenant, il ne sait même pas s'il était un prophète. Il saurait quelle sorte de femme elle est. Maintenant, les gars, nous allons boire un coup sur cela, ils dirent. Parce que regardez ici. Vous voyez, n'importe quoi pour salir son nom. N'importe quoi pour ruiner la confiance des gens. Ne sachant pas qu'ils étaient possédés du diable pour faire cela. Ils travaillaient en harmonie avec le diable, essayant de noircir le nom du Fils de Dieu. Comment l'ont-ils fait, frère? Parce qu'ils ne recherchèrent jamais les Écritures. Jésus dit, sondez les Écritures, en elles vous croyez que vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Oh, quel ministère il avait, voyez? Oui, monsieur, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas, voyez? Mais ici, ce pharisien dit, nous l'avons maintenant. Oh, regardez ici. Il y avait probablement 400 personnes à cette fête ici. Maintenant, regardez-le assis là. Là, il est assis avec une prostituée. Et oh, quelle chose terrible cela était en ces temps-là. Et là, il était avec une femme de mauvais renom. Il se fit prendre. Il semblait qu'il se fit prendre. Il alla près du laquais qui lavait les pieds et toutes les autres choses et il se fit là. Et il dit, la voilà là, lavant ses pieds. Maintenant, si c'était un prophète, voyez frère, cet homme n'est pas un prophète. Si c'était un prophète, alors il saurait quelle sorte de femme est en train de laver ses pieds. Et Jésus resta assis. Il la regarda. Il ne bougea jamais un pied jusqu'à ce qu'elle ait fini. Et si vous voulez faire quelque chose pour Jésus, Jésus reste assis. Il vous regarde le faire quelquefois. Il vous laisse aller jusqu'à ce que vous ayez fini. Alors la récompense vient. Peut-être que vous courez toute la course de la vie travaillant pour lui, mais ne vous en faites pas. Il y a une récompense au bout si vous prenez votre chemin de son côté. Peut-être qu'aucune personne pour laquelle vous avez prié ne sera guérie. Continuez simplement de prier pour eux. J'ai souvent dit, si je prie pour 500 ce soir et que tous les 500 soient morts le matin, demain soir, je prêcherai la guérison divine et je prierai pour les malades. Cela n'a rien à voir avec cela, vous voyez? Il vous laissera venir à la défaite et toute autre chose jusqu'à ce que vous veniez à la fin de la route et que vous finissiez votre travail comme il laissa cette femme. Elle voulait lui rendre un service. Ainsi, il laissa simplement ses pieds-là, il la laissa les laver. Oh, s'il avait dit, ne fais pas cela, elle aurait sauté, elle se serait sauvée. Mais il la laissa lui rendre ce service. Et après qu'elle ait terminé, qu'elle ait fini le service qu'elle voulait faire, alors il regarda cet hypocrite debout là-bas derrière, qui essayait de noircir son nom. Il dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire, pas à elle, mais à toi. Toi qui es debout là, dans ton cœur, voilà la raison pour laquelle tu m'as amené ici en bas. Tu n'as pas de communion avec moi. Est-ce que je ne le savais pas? Mais tu m'as amené ici. Tu me laisses ici derrière pour te moquer de moi. Laisse. Tu ne me donnas jamais d'eau pour laver mes pieds. Tu ne me donnas jamais rien pour m'apaiser. Moi, assis ici, brûlant et souffrant, tu ne me donnas pas d'huile pour mon visage. Tu as eu honte de me donner le baiser de bienvenue ou de me serrer la main. Vous voyez? Tu as eu honte devant ta compagnie. Tu as eu honte de le faire. Mais cette femme, depuis qu'elle est entrée, elle n'a rien fait d'autre que de frotter mes pieds et de les baigner avec les larmes même de ses yeux, les essuyer avec le linge de ses propres cheveux. Alors je veux seulement te montrer si je suis un prophète ou non. Amen! J'aime cela! Maintenant, je veux vous parler seulement pour une minute. Tes péchés qui sont nombreux te sont pardonnés. Est-ce qu'ils salirent son nom? Ils pensaient qu'il l'avait fait. Il pensait qu'il l'avait arrêté. Il pensait qu'il l'avait arrangé de telle sorte que son réveil ne serait jamais dans cette communauté. Ils pensaient qu'ils avaient ruiné son influence, mais il suffit seulement d'une personne qui l'aimait pour retourner toute la situation. Comment savez-vous si vous n'êtes pas cette personne pour votre communauté ou quelqu'un que vous rencontrerez? Rangez-vous de son côté, rendez-lui un service, faites quelque chose pour lui. Vous savez ce que je veux dire, frère? Prenez le côté de Jésus, prenez-le, faites en sorte qu'il soit votre choix, rendez-lui un service, quoi que n'importe qui en dise, ou que vous soyez repayé autre chose, cela ne fait pas de différence. Attendez jusqu'à ce que le travail soit terminé. Comment aimeriez-vous qu'il dise, même si vous avez prié pour les malades et qu'ils ne soient pas guéris, même si vous avez prié pour parler en langue et vous ne l'avez jamais fait, vous avez prié pour prophétiser, vous ne l'avez pas fait, mais la seule chose que vous puissiez faire, c'est de raconter l'histoire de Jésus dans votre église, dans votre communauté, à votre travail. Vous ne pouviez même rien faire, même pas conduire une personne. Cette femme n'en conduit pas un à Christ, mais elle lui rendit un service. Et quelle différence cela fait à la fin de la route? S'il dit, et je te le dis, tous tes péchés, même si peut-être pas une prière n'a été exaucée pour vous, mais vous êtes venus sur la base de ma parole, vous venez parce que vous m'avez cru et vous m'avez rendu service, et je dis que les nombreux péchés que tu as faits sont tous pardonnés. Cela serait assez pour moi. Amen. Oui, monsieur. Très bien. Ils veulent dire, les jours des miracles sont passés, et ainsi de suite. Laissez-les aller de l'avant et le dire, mais laissez-nous faire le service pour le Seigneur. Ils le haïssaient parce qu'ils étaient jaloux de lui. C'est la seule raison. Ils étaient jaloux. Ils essayaient de détruire son influence devant le peuple. La même chose qu'ils font maintenant. S'ils peuvent seulement détruire l'influence du message devant les gens. Alors, ils ont la chose effacée, c'est juste. Parce que, pourquoi essayèrent-ils de le faire? Parce qu'il était contre tout leur credo, et toute leur doctrine d'église, et tout ce qu'ils croyaient. Et ils l'appelaient, toute leur foi, ainsi de suite. Il était contre tout cela, et ils le haïssaient, parce qu'il se heurta à eux. Maintenant, s'il était entré, et s'il avait dit, « Ô Caïphe, homme merveilleux de mon père, je suis le Messie. Viens ici, Caïphe. Vois-tu cet eau là-bas? Te rappelles-tu là-bas en Égypte? Moïse, le grand prophète, la changea en sang. Tu te rappelles de cela, Caïphe? Ô jeune ami, je suis très familiarisé avec cette histoire. Très bien, Caïphe. Je vais changer l'eau maintenant, d'eau en sang, pour te montrer que je suis ce prophète dont Moïse a parlé. Voilà, Caïphe. Que penses-tu de cela? Que penses-tu de Caïphe comme étant un pharisien? Que penses-tu des pharisiens? Oh, je crois qu'ils sont d'une merveilleuse lignée de gens. Oh, vous gardez bien tous la tradition des pères, exactement juste. Ah, vous savez, vous pourriez bien être le Messie. Non, il ne le serait pas. Cela serait la marque même qu'il ne le serait pas. Quand vous voyez venir quelqu'un dire, viens ici et je te montrerai ce que je vais faire, et viens ici et je ferai ceci et cela, rappelez-vous maintenant qu'il y a quelque chose de louche pour commencer. Jésus dit, je ne fais rien avant que le Père ne me le montre d'abord. Est-ce que vous y êtes? Oui, il était contre eux. Il enseignait contre eux. Il condamna leur observation du sabbat. Il condamna la façon qu'ils s'habillaient. Il condamna toute leur façon de vivre, toute leur tradition, tout leur lavage de peau, et leur lavage de bouilloire, et leur lavage de main, et toutes ces autres choses. Il dit, vous portez des vêtements brodés, vous désirez les sièges élevés, vous faites de longues prières en public, et vous dévorez les maisons des veuves. Il dit, vous recevez plus de condamnations. Bien, mais rappelez-vous, je suis le docteur ceci. Cela m'est égal qui vous êtes. Oh, mes amis, il leur montra vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ne le crurent pas. Il était la parole, vous voyez? Il essayait de briser cette bande de légalistes. Et s'il était sur la terre aujourd'hui, il essayerait de faire la même chose. Il y a des gens qui disent, bien, maintenant, attendez une minute, nous observons le sabbat. Toujours, nous faisons ceci. Et vous savez, nous gardons tout ceci et nous gardons cela et tout. Mais chaque vendredi saint, quand le temps de jeûner vient, 40 jours avant Pâques, nous observons toujours le carême. J'arrête de fumer pendant 40 jours, j'arrête de boire pendant 40 jours, avant, pendant le temps du carême. Oh, la tradition des pères, légalistes! Si vous aimez Dieu, vous ne fumez pas pour commencer. Si vous aimez Dieu, vous, je l'ai écrit au dos de ma petite Bible, la première que j'ai jamais vue. Je dis, ne me demande pas de questions insensées. Garde cela dans ta tête. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, ne fume pas, ne bois pas, ou tu ne fumes pas, ne chiques pas, ou ne bois pas d'alcool. Cela est encore bien valable aujourd'hui. Je ne le fais pas parce que je pense qu'il me condamnerait si je le faisais. J'ai arrêté parce que c'est une chose malpropre et ce n'est pas convenable pour un ministre. C'est juste. Je ne dirai pas. Souvent, je vais dans des maisons. Il y a des femmes là. Je vais à une maison et je frappe à la porte et une sœur vient à la porte. Elle dit, entrez, frère Branham. Si son mari n'est pas là, à moins que cela ne soit un cas de maladie et qu'il y ait quelqu'un avec moi, je ne vais pas. Et alors, ils m'appellent à l'hôpital ou vers une chambre. Ils disent, frère Branham, venez ici. Je suis la sœur telle et telle place. Je suis ici à l'hôtel. J'ai pris ma maman avec moi. Elle est malade. Je prendrai ma femme. Et si je ne le fais pas, je prends quelque autre frère. Vous voyez, je ne pense pas. Je pense que ça irait si j'allais là-dedans. Mais qu'arriverait-il si quelqu'un me voyait aller là-dedans? Vous voyez? Et si quelqu'un me le voyait faire? Vous voyez? Alors la première chose que vous réalisez, il dirait, il est allé là-dedans où cette femme était. Il court après les femmes. Vous voyez? Cela serait une chose que je ne devrais pas faire. Vous voyez? Vous ne devriez jamais faire quelque chose comme cela, car vous mettez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un. Voyez, je ne crois pas que je ferais quelque chose de mal là-dedans. Cela ne ferait, je ne voudrais, ayant confiance en Dieu en allant là-dedans, qu'importe ce que la chose serait, j'aurais confiance en Dieu. Mais tout de même, vous voyez, dans, j'ai marqué le Seigneur pour ne pas le faire. Voyez, c'est un amour que vous avez. Vous ne le faites pas parce que c'est un devoir de le faire. Vous le faites parce que vous aimez le Seigneur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous le faites de toute façon. Paul le dit, toutes choses sont permises, mais elles ne sont pas toutes avantageuses. Voyez, Paul pouvait faire beaucoup de choses que peut-être qu'il savait que le Seigneur le comprendrait et qu'il avait confiance en lui, mais ce n'était pas avantageux pour lui de le faire. Ainsi, c'est de la façon que ces légalistes essayent de dire. 40 jours avant Pâques, nous commençons toujours un jeûne, et ils mangent la même chose qu'ils l'ont toujours fait. Peut-être qu'ils disent, bien, je n'aime pas les haricots, ainsi je ne mangerai pas de haricots pendant le carême. Je les ai entendus dire cela, je n'aime pas le porc, ainsi je ne mangerai pas de porc, vous savez, je vais arrêter de boire pendant le carême. Une femme m'a dit, vous savez de quoi je me suis privé pendant le carême cette année, frère Branham? Je dis, non, de quoi? Elle me dit, de bonbons. Elle dit, je ne les ai jamais aimés de toute façon. Vous voyez, vous y êtes. Maintenant, ils appellent cela jeûner, vous voyez? Du légalisme. Ils disent, bien, je dois. Vous savez, je suis allé à l'église pendant longtemps parce que, je vous dis, j'ai été à l'école du dimanche pendant toute une année parce que mon professeur a dit qu'il donnerait une Bible à celui et qu'il ne manquerait pas un seul jour. Maintenant, frère, voilà une manière d'agir. Je préférerais aller m'acheter une Bible, vous voyez. Si vous n'allez pas à l'église parce que vous aimez le Seigneur, vous avez aussi bon temps d'en rester éloigné. C'est tout, voyez, parce que vous allez là parce que vous aimez Dieu. Je pense à ce chant que nous chantons qui dit « Béni soit le lien qui unit nos cœurs dans l'amour chrétien. L'amitié d'esprit analogue est comme celui d'en haut. Quand nous nous séparons l'un de l'autre, cela nous donne des douleurs intérieures, mais nous restons unis dans nos cœurs et espérons nous revoir de nouveau. » Vous voyez, c'est cela. Quand nous nous séparons, cela nous fait de la peine. J'ai vu le temps, frère. Pas pour nous condamner, mais laissez-moi nous réveiller à quelque chose. J'ai vu le temps dans cette église que quand les gens devaient attendre jusqu'à mercredi soir pour se retrouver l'un l'autre, ils en pleuraient. C'est juste. J'ai vu des prédicateurs venir ici et dire, comment faites-vous cela? Mais ces gens sont juste un sale cœur, vous voyez. Ils se rencontrent à la porte, ils disent. Ces sœurs se rencontrent là-bas derrière. Elles se serrent dans les bras l'une de l'autre, elles disent, sœur, sois sûr de prier pour moi maintenant, ma chère. Je te verrai de nouveau mercredi soir. Tu prieras, n'est-ce pas? Tu pries pour moi, je prierai pour toi. Et allons comme cela, avec des larmes dans leurs yeux. Vous auriez vu les frères se serrant la main l'un de l'autre, et ils pouvaient à peine se séparer l'un de l'autre comme cela. Cela est vraiment de la fraternité chrétienne. Vous voyez? Vous voyez, attendant seulement, priant l'un pour l'autre. Oui, monsieur. C'est comme cela que nous devrions être. Très bien. Maintenant, ces hommes qui ont fait ces déclarations, ce n'étaient pas de mauvais hommes. Ils n'avaient pas l'intention d'être méchants. Ils pensaient qu'ils rendaient à Dieu un service, ces pharisiens et ces choses. Ce n'étaient pas des contrebandiers d'alcool et des ivrognes. C'étaient des hommes religieux. Ils n'étaient pas méchants. Ils n'acceptaient simplement pas la parole de la vérité. Ils n'acceptèrent pas l'esprit. Pourquoi ? Ils restèrent attachés à leur croyance et à la tradition de leur chef. Vous voyez, cela montre qu'ils aimaient leur chef. Voici grand Caïphe, le grand prêtre. Voilà le reste de ces grands prêtres. Et ces hommes acceptent. Maintenant, vous prenez comme les catholiques, ils. Oh, pas pour m'en prendre à eux. C'est la même chose pour les protestants. Mais vous prenez un catholique. Il aime son prêtre. Et je lui parlerai de la parole du Seigneur. Il voit les œuvres de Dieu, dira. Mais mon église ne croit pas à cela. Et vous allez par là, et vous allez lui parler, pincer maintenant, et dites, une femme me dit l'autre jour, elle me dit, c'est un péché pour moi de vous écouter, vous voyez. Elle n'avait pas l'intention de dire du mal. Elle pensait tant de bien de son église et de son prêtre qu'elle ne voulait rien écouter d'autre. Elle était loyale à ce prêtre. Les témoins de Jéhovah sont loyaux à ce qu'ils croient. Les baptistes sont loyaux à ce qu'ils croient. Les presbytériens sont loyaux à ce qu'ils croient. Et ils sont aussi loyaux à leur pasteur. Mais pouvons-nous être aussi loyaux que cela à la parole? Vous voyez? Maintenant, si c'est, je vais vous demander quelque chose. Vous dites, bien, frère Branham, comment sais-tu qu'ils ne le sont pas? Maintenant, si ces pharisiens et ces sadducéens et ces chefs de ce jour-là s'étaient détachés de leurs croyances et de leurs dogmes, s'ils avaient écouté ce que la parole dit et ce que Jésus leur disait, juste exactement ce que le Messie devait faire, ils s'en seraient tenus à lui, vous voyez? Mais ils pensaient tant de bien de leur chef. Ce n'étaient pas de mauvais hommes. Ils n'auraient pas volé, menti, juré ou autre chose comme cela. Ils n'auraient pas fait cela. Ils n'auraient pas commis adultère, certainement pas. Pourquoi? Ils auraient assisté à la lapidation de quelqu'un qui aurait fait une telle chose. Et ils n'auraient pas fait cela. C'étaient des hommes bons. Mais la seule chose était qu'ils n'étaient pas des hommes spirituels. Moralement, tout allait bien. Mais ce n'est pas ce qui compte. Et que leur dit Jésus? Même à ces hommes loyaux, il dit, vous êtes de votre père, le diable. Vous voyez? C'est la parole qui compte. Maintenant, je vais me dépêcher aussi vite que je le pourrai. Maintenant, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, mais ils étaient loyaux. Ils s'en tenaient à la croyance moderne de leur chef. Vous voyez? Très bien. Son ministère jetait une ombre sur leur doctrine. Voilà ce qu'il y avait. Maintenant, regardez. Maintenant, prenez-le simplement. Maintenant, simplement. Frère, je vais vous demander de m'excuser pour faire si long. Peut-être que vous ne voudrez pas que je revienne pour une autre fois, mais regardez, écoutez ceci. Vous voyez, je veux être sûr que vous le saisissiez. Maintenant, ils avaient leur croyance. Ils étaient de grandes églises, un grand peuple, de grands hommes, des hommes saints, de bons hommes, des hommes gentils, des hommes bien, des hommes honorables, des hommes d'honneur, instruits, intelligents, religieux. Est-ce juste? Maintenant, nous savons tout cela. Aussi bon que vous puissiez les trouver n'importe où, voyez. Mais quand Jésus arriva, son ministère fit ressortir leur doctrine. Car Dieu prouvait par le ministère de Jésus-Christ qu'il était avec lui. Pierre n'a-t-il pas cité la même chose? Il dit, vous, hommes d'Israël, que cela se sache parmi vous et prêtez l'oreille à mes paroles. Il dit, Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous. Voyez, s'il, comme cet homme aveugle a dit, n'est-ce pas une chose merveilleuse? Vous êtes les chefs spirituels de la nation, et ici vient un homme, il ouvre mes yeux par la puissance de Dieu, et vous ne savez quand même rien de lui? Il dit, c'est une chose merveilleuse. Il avait quelque chose, n'est-ce pas? Certainement. Très bien. Il fit, un homme qui pouvait faire cela, et ne savait tout de même pas d'où il était. Maintenant, c'est une chose merveilleuse. Maintenant, regardez aujourd'hui, frère. Vous voyez? Nous savons que nous avons un mouvement de Dieu. Nous savons qu'il accomplit des miracles, qu'il guérit les malades, il ressuscite même les morts, il chasse les démons, il parle en langue, il interprète les langues, il envoie des prophéties et elles arrivent. Il nous montre des rêves, des interprétations. Tout cela est parfait, strictement. Alors, n'est-ce pas une chose étrange que les grands chefs diraient que nous sommes une bande de fous quand eux, ils sont les chefs de la nation, les chefs des églises? C'est une chose merveilleuse. Qu'est-ce que c'est? c'est encore de la jalousie. L'esprit et la puissance et la parole de Dieu dans ces derniers jours montrent leurs dogmes et croyances, c'est tout ce qu'il en est, qu'ils ont été aveuglés par des hommes. Ainsi, mes jeunes frères, vous tous qui venez ici, ces églises s'en tiennent à la parole de Dieu. Ne bougez pas. Si vous ne pouvez pas faire que cela arrive, ne vous mettez pas sur le chemin de quelqu'un. Tenez-vous là, frappant à la porte, vous pointant droit sur elle. C'est juste. Restez juste sur cela. Ne commencez pas du fanatisme, car cela va vous démasquer. Mais si vous restez fidèles et saints, et avec cette parole, Dieu vous justifiera. C'est juste. Son ministère dévoilait leur doctrine, leur donne. Ainsi, ils essayèrent par tous les moyens qu'ils pouvaient trouver de se débarrasser de lui. Tout ce qu'ils pouvaient trouver pour se débarrasser de lui, ils l'ont fait. Essayons de dire, bien maintenant, regarde ici, ceci et ceci, celui-là. Et là, il était assis un jour dans la maison de Simon lépreux. Pas une parole ne dit qu'il l'a guéri. C'était un lépreux. Rien ne dit qu'il l'a guéri. C'est juste. Mais il passa près de la fontaine de Bethesda et là étaient couchés environ 2000 personnes, boiteux, aveugles, des boiteux, des écrasés. Il alla vers un homme, il le guérit et il s'en alla. Vous dites, bien maintenant, s'il était le Messie, il les aurait tous guéris. S'il était plein de compassion, comme vous dites, tout ce qu'il est, il aurait eu de la miséricorde pour tous. Voyez-vous, tout ce qu'ils pouvaient trouver pour jeter une tache noire sur lui, ils l'ont fait. Tout ce qu'ils pouvaient trouver, ils le jetèrent sur lui. Très bien. Ils prirent toutes les chances qu'ils avaient pour se défaire de lui. Ils questionnèrent sa naissance fut mise en question. Ils mirent cela devant les gens. Ils ne pouvaient pas comprendre comment elle était née d'une naissance vierge. Et Joseph, son père, était supposé l'être un charpentier, et il naquit avant que Joseph et Marie fussent mariés. Ils jetèrent cela devant le peuple. Oui, monsieur. Voyez, ce que je dis maintenant, ils le marquent en noir. Voyez, regardez-le, d'où venait-il? Regardez à sa mère. Pas plus qu'une prostituée de rue, elle a eu ce bébé. Et après que le bébé soit né, elle était déjà enceinte. Le bébé devait naître. Alors Joseph s'est marié pour le cacher. Et alors, elle revient avec une sorte de... Mais c'est l'œuvre du diable. Ne pouvez-vous pas le voir? C'est cette sorte de naissance. Ils jetèrent tout ça devant les gens. Et ne lisez même pas dans la Bible Ésaïe 9, 6, une vierge concevra. Vous voyez, qu'était-ce? Ils s'éloignèrent de la parole, c'est cela. Ils jetèrent des figures noires à son autorité. Messieurs, ne savez-vous pas que nous sommes des disciples de Moïse? Ne savez-vous pas que nous sommes des serviteurs de Christ? Ne savez-vous pas que nous cherchons les Écritures quotidiennement? Et nous n'avons pas une chose. Ils dirent que le Messie viendra à son temps. Pas une parole de lui venant au temps. Où est-il? De quelle école est-il? Demande à n'importe lequel des frères. Les méthodistes et les baptistes et presbytériens. Vous savez, pharisiens, sadducéens, ainsi de suite. Quelle sorte de cœur de membre possède-t-il? Où est son autorité de prêcher? Il n'a même pas été ordonné. Il n'a même pas le droit de prêcher. Il dit, mon ordination vient de Dieu. Mes œuvres justifient ce que je suis. C'est juste. Je n'ai pas besoin d'avoir tous vos papiers. Vous voyez ce que je veux dire? Ils jetèrent cela, sa doctrine. Pourquoi? Ils l'appelèrent Belzébul, sa doctrine. Ils ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi? Ils n'étaient d'accord avec aucune des traditions des pères. Ils n'étaient même pas d'accord avec les pharisiens. Ils n'étaient pas d'accord avec les sadducéens. Ils n'étaient pas d'accord avec tout leur groupe. Maintenant, d'où prend-il sa doctrine? Dans la Bible, évidemment. Bien, vous dites, bien, mais comment est-ce que je sais que c'est juste? Dieu se tient derrière elle. C'est ce que l'homme aveugle a dit. C'est une chose étrange. Si vous êtes si juste et il est si faux, il peut tout de même prendre la puissance de Dieu et ouvrir mes yeux. Et vous, vous ne l'avez même jamais vu faire. C'est une chose étrange. Oh, j'aime me ranger de son côté. Pas vous? Certainement. Vous dites, vous êtes les disciples de Moïse et vous êtes si juste et il a si tort. Alors laissez-moi vous voir faire les choses qu'il fait. Amen. Voilà où est sa doctrine. Ils le dénoncèrent, tous ses droits. Ils disent, il n'a pas sa prétention d'être le Messie est fausse. Comment pourrait-il être le Messie et ne pas venir à l'église? Comment pourrait-il être le Messie? Et nous sommes ici la crème d'Israël. Mais la crème avait tourné, vous voyez? Oui, monsieur, il y avait des mouches dessus. Ainsi, il devait écrémer cela. Ainsi, il dit, nous sommes ici l'église, les élus, nous avons gardé les traditions, nous avons gardé les lois de Moïse, nous avons fait toutes ces choses, et tout comme cela. Et voici, cet homme arrive, il dénonce tous nos droits, et à côté de cela, notre saint prêtre, notre très saint père qui a fait ceci et qui a fait cela et toutes ces autres choses, et tous nos grands hommes, il les appelle du diable et il s'appelle le Fils de Dieu. Oh, vous voyez, ils essayent de jeter toutes ces ombres sur le nom de Jésus et sur Jésus pour l'avoir devant les gens. Il pourrait être dit encore beaucoup de choses ici, mais cela prend trop de temps. Mais quoi? Mais la parole et les œuvres le justifiaient. Amen. Oh, aux vrais croyants, les prédestinés, qui étaient prédestinés à le voir et à connaître son ministère, il était là. Qu'importe qu'il n'avait jamais ouvert sa bouche sur rien, il savait qui il était. Alléluia! Et cette vieille petite prostituée alla vers le puits ce jour-là pour prendre un baquet d'eau. Un homme de la cinquantaine, assis là, il dit, « Donne-moi boire. » Elle dit, « Mais ce n'est pas la coutume pour vous les Juifs de demander une telle chose à une femme de Samarie. » Il dit, « Mais si tu savais à qui tu parles. » Maintenant, elle pense, « Voici un de ces finaux de Juifs. » Elle se retourna et dit, « Eh, je vois que tu es Juif. Et si tu es Juif, tu es évidemment religieux. Et vous vous dites d'adorer à Jérusalem. Mais notre père Jacob, vu de ce puits, il abreuva ses vaches ici, et l'eau est profonde, et tu n'as rien pour la tirer. Et nous adorons ici sur cette montagne. » Il dit, « Arrête-toi une minute. Va chercher ton mari et viens ici. » Elle dit, « Je n'ai même pas de mari. » Il dit, « Tu as dit la vérité. » Il dit, « Tu en as eu cinq. Tu en as eu cinq. Et celui avec lequel tu vis n'est pas le tien. » Cette petite prostituée, prédestinée, je peux juste la voir, poser ce point et dire, « Monsieur, je discerne que tu es un prophète. » vous voyez, cette semence était là. La seule chose dont elle avait besoin, c'était de l'eau, et l'eau était tombée dessus. Et quand elle tomba sur ses pharisiens, dire, cette belle débule, cela ne pouvait rien rapporter, il n'y avait rien là, il ne pouvait venir que des mauvaises herbes. Mais quand la semence prédestinée toucha cette eau de vie, elle dit, Monsieur, tu dois être un prophète. Je sais que quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Elle laissa ce pot d'eau dans la ville. Elle avait quelque chose à dire. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas le Messie? Vous voyez, elle se mit du côté de Jésus. C'est juste. C'était une chose étrange, n'est-ce pas? Tous ces pharisiens, tous ces sadducéens ne le connaissaient pas, et cette prostituée le connaissait. Vous voyez? Pourquoi? Ceux qui le crurent et l'aimaient et virent ses signes, ils savaient que c'était le signe du Messie. Il n'y a pas à y aller par des contours. Ils le savaient. Et quand le vieux Nathanaël s'avança là-haut, peut-être devant Philippe, il dit, « Maintenant, je ne sais pas concernant cela, Philippe. J'ai vu beaucoup de choses arriver dans ces derniers jours. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. » Mais il marcha devant lui et dit, « Je vais l'écouter et voir ce qu'il a à dire. » Il marcha là-bas, Jésus dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point d'autre fraude. » Il dit, « Rabbi, mais depuis quand me connais-tu ? » Il dit, « Avant que Philippe ne t'appela, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Qu'est-ce ? L'eau toucha cette semence prédestinée. Et quand elle le fit, il dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Qu'était la semence était là, prête. Dieu la sema, il y a très longtemps, avant la fondation du monde, afin qu'elle puisse apporter la lumière, juste à ce moment-là. Alléluia! C'est mon appui juste là, frère. Voilà où je crois, exactement là. Je le prêche, et elle tombe là ou là, et ils vont de ce côté-ci et de ce côté-là. Cela ne fait aucune différence. Quelque part, cette parole touchera une semence. Et quand elle le fit, cela amène la vie juste comme cela, aussi sûr que le monde. Oui, monsieur. Et quand ce garçon aveugle, il dit, cela fut fait afin que les œuvres de Dieu soient rendues manifestes. Vous voyez, il savait ce qui se passerait. Certainement, il le savait. Très bien. Maintenant, les prédestinés, quand ils virent ces signes scripturaires, ils savaient que la parole justifiait les œuvres, ou que les œuvres justifiaient la parole, que la parole était juste. Ils étaient prédestinés à le voir, et ils étaient juste en ligne pour le voir, et ils le reçurent. Alors il dit, après qu'ils aient vu qu'ils ne pourraient aller nulle part, parce que les gens qui étaient prédestinés à la vie éternelle, ils allaient le trouver, et c'est tout. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, et tout ce qui viendra à moi, je lui donnerai la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il n'y aura aucun d'eux qui sera perdu. Amen. Je me tiens juste à cela, voyez, pas par des œuvres, pas par des actes, pas par la puissance, pas par la force, par mon esprit, dit Dieu. Pas ce que j'ai fait, ce que je suis ou ce que je serai, mais ce qu'il est et que ce que je suis en lui. Et quoi qu'il soit, je suis une partie de lui. Amen. Je suis sauvé parce que je suis une partie de lui. Et il est Dieu. Et je suis une partie de lui étant son fils. C'est juste. Ainsi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce que je ferai, c'est ce qu'il a fait. C'est ma confiance. Juste là. Très bien. Ainsi, ils virent qu'ils ne pouvaient aller nulle part. Je vais sauter quelques-unes des Écritures ici. Ils virent qu'ils ne pouvaient aller nulle part avec lui. Ainsi, vous savez la prochaine chose qu'ils devaient faire pour essayer de le sortir du champ? Ils allèrent dire à ses frères, à sa mère, « Vous savez, il est terriblement fatigué. Vous devriez le mettre de côté pour un petit moment. » Cette bande d'hypocrites. Ils ne faisaient simplement pas. La chose était qu'ils ne voulaient tout simplement pas prendre la chose qu'ils ne voulaient pas faire. Ils voulaient se débarrasser de lui. Ce n'était pas qu'ils pensaient qu'il était si fatigué. Ils auraient aimé qu'il travaille jusqu'à la mort. Mais toutes les fois qu'il sortait, les miracles commençaient d'arriver. La parole de Dieu partait en avant. Est-ce que je n'aurais pas aimé l'entendre, là debout, ce jour-là, sur la côte, quand il appela Simon-Pierre et il dit, « Suis-moi. » Oh, combien j'aurais aimé avoir un gros morceau pour m'asseoir là. Laissant mes filets, laissant ma ligne, frère Chris, m'asseoir là, m'appuyer sur ce gros morceau, l'écouter prêcher quand il alla dans ce bateau. Oh, combien j'aurais aimé l'entendre quand il dit cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés lourdement, je vous donnerai du repos. Amen. J'aurais aimé l'entendre dire cela. Ils essayèrent de prendre sa mère et les autres et de le sortir du champ. Ils dirent, viens, vous savez, il est survenu. Je crois que vous auriez meilleur temps de le sortir comme cela. Toutes les manières possibles pour s'en débarrasser. C'est tout ce qu'il voulait. Oui, monsieur. Et de nouveau, ceux qui allèrent avec lui, juste pour trouver une place pour lui tendre un piège. Saviez-vous cela? Les gens continuèrent à le suivre seulement pour trouver une place. Un jour, ils lui donnèrent une pièce de monnaie et ils dirent, Rabbi, avant qu'il lui donne la pièce de monnaie. Rabbi, nous sommes des Juifs. Nous savons que tu es un grand homme de Dieu. Oh, quels hypocrites. Vous voyez? Nous savons que tu es un grand homme de Dieu. Oui, monsieur, Rabbi. Il marchait juste à ses côtés. Oh, bonjour, frère. Oh, nous sommes si contents que tu es ici dans notre pays. Oh, nous sommes si contents de te voir. Nous sommes vraiment avec toi. Des dents et des ongles, frère. Si tu penses avoir un réveil, nous pourrions même coopérer avec toi. Vous voyez ce qu'ils essayent de faire? Lui tendre un piège. Voyez? Ils disent, maintenant nous savons que tu es un grand homme de Dieu. Tu ne demandes de faveur d'aucun homme. Tu n'as peur de personne, mais de Dieu. Et nous savons que tu es très courageux. Oh, tu es sans peur avec ton message. Nous savons que tu es un grand prophète, car aucun homme ne pourrait faire comme cela. Et étant sans peur avec ton message dans des jours comme ceci, à moins qu'il ne soit un prophète de Dieu. Et qu'il ne sache où il se tient. Ainsi, nous savons que tu ne respectes la personne d'aucun homme. Rabbi, tu es un grand homme. Nous sommes des Juifs. Nous sommes totalement avec toi, frère. Nous le sommes certainement. Maintenant, Rabbi, est-ce juste de payer le tribut à César? Oh, cette bande d'hypocrites, vous voyez? Mais le Saint-Esprit était avec lui. Il était le Saint-Esprit. Il dit, avez-vous une pièce de monnaie? Il dit, oh oui. Il dit, nous avons une pièce de monnaie. Et il dit, donnez-la-moi. Il dit, de qui en est l'inscription? Ils dirent, de César. Il dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils lui tendirent un piège, professant être ses amis. Il semblait que personne ne pouvait le comprendre. Ils voyageaient avec lui pendant un moment, et alors ils en étaient dégoûtés, s'en allaient. Ils disaient, Oh, bien, nous pensions certainement. Même les disciples dirent, nous pensions certainement que c'était lui qui allait. Même Jean alla lui faire demander, es-tu celui-là ou devons-nous en attendre un autre? Voyez, oh, quelle vie il faut avoir vécu, voyez, et sachant cela. Mais il avait une intention, faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup allèrent avec lui, seulement pour trouver une place pour lui tendre un piège. Maintenant, j'espère que ce n'est pas sacrilège si je dis, c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup viennent et suivent les réunions seulement pour trouver un endroit, pouvoir prier pour quelqu'un. Ici, il n'y a pas longtemps, une certaine sœur qui vient dans cette église était dans une autre église, où Dieu fait que toutes choses arrivent. Et cette sœur dit à l'autre sœur, elle dit, tu sais, cet homme qui peut prier pour les malades, elle dit, il doit avoir une vie très victorieuse, elle dit, il doit être sûrement capable, sa famille et toutes choses, d'être guéri sur une parole parlée comme cela. Frère Branham fait claquer ses doigts, note de l'éditeur. Et il se trouvait que l'autre sœur venait de Jeffersonville. Et je suis sûr que personne ne doit savoir cela. Mais ce que Jésus dit, parmi votre propre peuple, vous savez, votre pays, c'est juste. C'est la raison que je... Cela pourrait être aussi juste que cela maintenant, comme ça s'approche. Cela peut être un changement de temps, voyez. Elle dit, vous savez quoi? Elle dit, pas un de ses enfants ne peut avoir un simple renifement qui nous a déjà conduit chez le médecin. Oh, une pauvre personne dégradée, abusée comme ça, voyez, une femme qui voulait simplement renverser. Elle dit, quand ses enfants sont malades, il les conduit chez le docteur. N'importe qui a tout son sens, fera la même chose. Les gens ne peuvent pas comprendre que la médecine est envoyée de Dieu. Pourquoi, frère? Si cela ne l'est pas, c'est du diable, certainement. Dieu est où la médecine ne peut plus aller. Certainement, la médecine est de Dieu. Bien, vous dites, je connais beaucoup de docteurs qui... Oh oui, et je connais beaucoup de prédicateurs qui en sont au même point aussi. Ce n'est pas l'homme qui le manipule, c'est ce que c'est. Je connais beaucoup d'hommes qui manipulent la parole de Dieu et qui ne croient pas à la guérison divine. Ils ne croient même pas en Dieu, c'est juste, mais ils la manipulent de la même façon. Il y a beaucoup d'hommes là-dehors avec la médecine et les médicaments et ces choses qui renient Dieu et toutes ces autres choses, mais il y en a aussi beaucoup qui y croient. Et si cela aide les gens, cela vient de Dieu. Je n'ai pas besoin de prendre cette voiture et de la conduire à la maison ce soir. Je peux marcher avec mes jambes si je le veux, mais Dieu m'a donné une voiture. Aussi, je remercie Dieu pour cela. Toutes ces choses viennent de Dieu, mais employez-les avec bon sens. Ne devenez pas insensé avec elles, vous voyez, la même chose. Ainsi, c'est tout, vous voyez, essayons simplement de trouver quelque chose à ce jeune converti pour flétrir le nom des œuvres de Dieu. Vous voyez, il voulait le flétrir. Et chaque fois qu'un enfant est malade, comme ses enfants, il les conduit au docteur. Certainement, je le fais. Et si le docteur ne peut pas, avant d'aller là, je demande l'aide de Dieu. Alors, si le docteur ne peut rien faire pour cela, alors je les apporte un peu plus haut. C'est juste. Oui, monsieur. Oh, exactement la même chose aujourd'hui. Ils essayent de tendre un piège quelque part. Ils les connaissaient. Mais notez, il ne les a jamais blâmés. Il alla directement avec eux. Il fait la même chose maintenant. Il va directement avec eux. Il leur montre sa miséricorde, c'est juste. Même s'ils font tout contre lui. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Il alla avec eux. Mais ils sont toujours prêts à s'attendre à lui en cas d'urgence. Ils le veulent alors. Ils ne le veulent pas maintenant. Ils se moqueront de quelqu'un qui crie. Ils se moqueront de quelqu'un prêchant la guérison divine, disant qu'il n'y croit pas. Ils ne sont simplement pas encore assez malades. J'en ai entendu plusieurs. Une femme mourant, juste comme je montais les escaliers, quand je prêchais juste ici. Un homme se tenant debout juste là devant la porte m'appelant. Elle était passée par ici. Elle vivait là-bas, en haut dans la rue. Elle avait une vache là-bas. Elle dit, si ma vache avait cette sorte de religion que Billy a, je tuerais ma vache. Mais, moins d'une heure après, elle fut foudroyée, transportée à l'hôpital. Une très belle jeune femme. Je me dépêchais d'aller là-bas. Son mari était un catholique. Il m'avait fait appeler. Elle est mourante. Elle passa. Ses yeux sans clair. Elle dit, appelez-le, vite. Et son frère courut ici. Il se tint près de la porte. Il attendit. Il me faisait des signes. L'endroit était plein de gens. Et après un moment, quelqu'un est venu ici. Il m'a mis une note sur le pupitre. Et celle-ci disait, quelqu'un est en train de mourir à l'hôpital. Et je crois que frère Grim Snelling, je dis, prends ma place jusqu'à ce que j'aille là-bas. Il était justement debout pour conduire les chants. Il n'était même pas appelé pour prêcher à ce moment-là. Il vint pour conduire les chants. Et je sortis, je montais dans ma voiture, je me dépêchais d'aller là-bas. Et juste comme je montais les escaliers, il poussa son dernier soupir. Et évidemment, les intestins et les reins, toutes ces choses travaillent. Et je courus là-haut. Ils avaient déjà couvert son visage. Il y avait de la vapeur qui montait comme cela. Et cette vieille infirmière debout là, elle dit, frère Branham, elle cria son dernier soupir pour vous, essayant de mettre tout en ordre. Mais c'était alors trop tard, vous voyez. Vous pouvez pécher une fois de trop, vous savez. Et elle avait une sorte profonde dans son visage. Elle avait des cheveux châtain roux, une très jolie femme. Et elle, ses cheveux coupés étaient tout mal arrangés, de très grands yeux bruns, étaient sortis en avant, juste à moitié fermés. Et les taches de rousseur sur son visage étaient devenues telles, une telle tension qu'ils sortaient tous, et cela formait de petites bosses tout au travers de son visage. Sa bouche était ouverte. Je m'avançais là, je la regardais. Et là, c'était son mari qui dit, « Billy, voici ce que c'était. » Il dit, « Je suis catholique. Je veux que tu dises une prière pour elle, car elle est partie au purgatoire. » Et je dis, « Quoi ?» Il dit, « Dis une prière pour elle. » Il dit, « Elle est allée au purgatoire. Elle passa près de ton église il y a environ 2 heures. Et elle dit que si notre vache avait jamais sa sorte de religion, elle tuerait la vache. » Vous voyez ? Il dit, « Dis une prière pour elle. » Je dis, « C'est trop tard. Elle aurait dû purger son âme ici, pas jusqu'à ce qu'elle aille à une autre place. » Vous voyez ? C'est juste. Oh oui, mais nous le voulons toujours dans un moment de détresse. J'ai entendu les gens dire, je ne crois pas en Dieu. Laissez-le se faire vraiment mal une seule fois. Voyez à qui il fera d'abord appel. Même ses disciples, une fois quand ils étaient dans la tempête, même quand ils le virent, ils avaient un peu peur de lui. Ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Ils dirent, c'est un esprit. Et il s'écria, mais tout de même, tout espoir d'être sauvé était passé. Ainsi, ils l'invitèrent à l'intérieur. Oui, ils sont toujours. Vous êtes un peu suspicieux ou non, mais quand tout espoir est passé, vous aimez l'inviter. Oui, ils le prirent dedans parce qu'ils avaient besoin de lui, c'est juste. Vous savez, je me suis souvent demandé parfois, peut-être voilà pourquoi la tempête arrive. Avez-vous jamais pensé à cela? Il s'assit là-haut, il les observa jusqu'à ce qu'ils aient besoin de lui, et alors il entra en scène. Ainsi, nous pouvons voir notre besoin de lui maintenant. Nous voyons que la tempête arrive, frère. Rangeons-nous de son côté ce soir. Rangez-vous du côté de sa parole. Je termine ici. Rangeons-nous de son côté. Que nous, vous et moi, frère, nous nous joignons à lui ce soir. La tempête arrive. Et n'attendez pas jusqu'à ce que le petit bateau coule. Prenons-le dans notre petite barque maintenant. Vous regardez peut-être et dites, je ne peux pas comprendre toutes ces choses, frère Branham. Voyez, si nous disons quelque chose, mais qui ne soit pas dans la parole. Voyez, s'il y a quelque chose là, mais ce qu'il a promis de faire. Cela pourrait vous paraître un peu bizarre de temps en temps. Vous pensez, oh, je ne peux pas comprendre cela. Mais il y aura un jour où votre vie vous quittera. Cela ne paraîtra pas si mal alors. Quand vous savez vous-même, vous devez retourner à Dieu qui vous a créé. Vous voudrez alors le prendre. Prenons-le maintenant, avant que la tempête ne devienne pire qu'elle n'est actuellement. Je le veux dans mon cœur, je le veux tant dans ma vie, jusqu'à ce que tout mon être soit saturé, que mon esprit, que mes pensées, tout ce que je suis, soit gouverné et contrôlé par le Christ Jésus. Je veux être si perdu à moi-même que tout ce que je serai et verrai, c'est Jésus-Christ. Et si je veux venir devant vous tous, si le Dieu du ciel vous permet d'avoir ces choses dont j'ai parlé quand je viens parmi vous, je veux connaître Jésus et lui crucifié. Je veux connaître la gloire et les précieuses louanges de Dieu, m'asseoir au milieu de vous, écouter un prédicateur se lever et donner les louanges à Dieu pour ce qu'il a fait dans son église, et un autre ce qu'il a vu faire dans son église, et un autre ce qu'il a vu faire dans son église. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et quand ils vinrent ensemble, ils se rencontraient dans la fraternité dans Actes chapitre 4, et ils donnaient des comptes rendus de ce que Dieu avait fait ici, et de ce que Dieu avait fait là, et Pierre et Jean avaient été fouettés, et on leur avait fait promettre que si ils, ce qu'ils leur feraient, s'ils prêchaient encore dans le nom de Jésus. Et ils s'étaient retrouvés avec leur peuple. Et ils priaient tous d'un commun accord. Ils priaient dans la volonté de Dieu. Et ils citèrent l'Écriture. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Et quand ils eurent prié, le Saint-Esprit ébranla la place où ils étaient assemblés ensemble. Voilà le genre de réunion dont nous avons besoin. C'est ce que nous devons avoir, frères. Soyons fortifiés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, et que notre lumière luise maintenant, que nous puissions être comme Étienne. Il se tint là, un homme tout seul, dans ce conseil du Sanhédrin, de peut-être 1,5 million d'hommes qui étaient là debout, tous pointant leurs doigts en accusation contre lui. Mais, quand ce petit gars marche là-bas, ils dirent qu'il brillait comme un ange. Je ne veux pas dire une lumière sur son visage comme cela. Un ange n'a pas besoin d'avoir une lumière sur lui. Mais un ange est un homme. Un ange est un messager. Et un messager qui sait de quoi il parle. Il marche là-dehors, il dit, hommes et frères et pères, nos pères en Mésopotamie, comment ils ont été tirés d'eux, et Abraham, et ainsi de suite. Et en allant sur cela, et cela, et cela. Alors, il arriva au point où les choses se gâtèrent. Oh, vous, ô Courède, et incirconcis de cœur et d'oreille, pourquoi résistez-vous toujours au Saint-Esprit? Vous faites comme ont fait vos pères. Ils savaient exactement sur quoi ils se tenaient. C'est la raison pour laquelle ils brillaient. Ils n'avaient aucune peur. Ils savaient en qui ils croyaient. Même quand la mort frappa à la porte du cœur de Saint-Paul, et il dit, je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié pour ce jour. Amen. Le Seigneur vous bénisse, frère. Je regrette de vous avoir gardé jusqu'à 11h-20. Je sais que ce n'est pas la coutume pour vous. Je regrette de le faire. Mais vous avez été très gentils ce soir. Aucun de vous n'est parti. Vous êtes tous restés assis. Vous avez donné votre attention non partagée. Et j'ai confiance. J'espère que dans mon petit discours, nerveux et brisé, que Dieu, le Saint-Esprit, a quelque part versé une petite semence dans votre cœur et que la puissance de Dieu la touchera et la mènera à la vie, juste comme la femme au puits et les autres qui étaient prédestinés à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Frère Neville, tu vas congédier ou que veux-tu?